Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, on visite un monde futuriste dans lequel coexistent les humains, les êtres synthétiques et des voitures volantes. Nous tenterons aussi de découvrir s'il est vraiment possible que la suite d'un film soit un succès plus de 30 ans après la sortie de l'original. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. C'est à l'automne 2017 qu'une des suites les plus intrigantes et attendues des dernières années prenait l'affiche au cinéma, celle de Blade Runner. Ce film culte de science-fiction réalisé par Ridley Scott en 1982 et adapté d'un roman de l'auteur Philip K. Dick. Après plusieurs tentatives d'en produire une suite qui ont tout avorté au cours des années 80 et 90, les as se sont finalement alignés 35 ans plus tard pour que Blade Runner 2049 soit réalisé. Chapeauté par Ridley Scott, dirigé par la vision unique de Denis Villeneuve et matérialisé par un groupe d'acteurs au-dessus de la moyenne, cette deuxième aventure dans le futur dystopique des Blade Runner avait tout pour être une réussite cinématographique incontestable. Bien que le film ait connu un solide succès critique à sa sortie, le public a malheureusement pas été au rendez-vous auquel Blade Runner 2049 l'avait convié. Dans cet épisode, mon invité et moi allons minutieusement nous pencher sur tous les aspects de ce long métrage qui en font un film si mémorable et unique. On va aussi tenter de comprendre les raisons qui ont fait en sorte qu'il a été si impopulaire auprès du grand public. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez écouter et télécharger gratuitement tous nos précédents épisodes sur SoundCloud et Balado Québec. Vous avez juste à écrire le nom du podcast dans le moteur de recherche et ça va vous amener à la liste de tous nos épisodes. Je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook du podcast au facebook.com/podcastscop pour connaître avant tout le monde un tas de nouvelles sur les nouveaux épisodes à venir. Et comme dans la vraie vie, n'hésitez pas à partager le podcast auprès des gens qui vous entourent. Je suis pas mal certain qu'ils apprécieraient l'écouter pendant leurs déplacements, leurs moments de détente et surtout en cachette pendant les interminables réunions de département au bureau. Chers auditeurs et auditrices, c'est maintenant le temps d'embarquer avec nous pour commencer notre voyage temporel jusqu'en 2049. Le film Blade Runner 2049, l'année 2017, réalisé par Denis Villeneuve et mettant en vedette Ryan Gosling entre deux films de Nicolas Winding-Refn, Jared Leto entre deux concerts de son groupe de musique, Robin Wright entre deux saisons de House of Cards et Harrison Ford entre deux écrasements de son avion personnel. Et on est de retour, chers auditeurs, et on commence notre épisode sur Blade Runner 2049 immédiatement. Chers auditeurs, c'en est un que j'avais hâte de faire depuis très longtemps, et je suis allé chercher un invité, mon Dieu, que vous allez l'aimer, ok? Parce que ce gars-là, bon, en plus d'être un ami personnel, c'est un gars qui s'y connaît énormément en cinéma, en littérature de science-fiction, c'est un spécialiste comme il y en a très peu de l'auteur Philip K. Dick. Ça me fait plaisir de vous le présenter, mesdames et messieurs, je vous présente Marc-André Roy. Marc-André, comment vas-tu?
Salut Sébastien, ça va très bien, et toi?
Ça va très bien, merci d'être avec moi cet après-midi. Marc-André, sans plus attendre, j'y vais avec la petite question brise-glace, ok? En temps normal, je te demanderais, comme je le fais tout le temps, c'est quand la première fois que t'as vu Blade Runner 2049? Sauf que moi, de mon côté, je connais très bien la réponse. Puis quand même, tu vas donner la réponse à nos auditeurs dans quelques minutes, mais avant, j'arrive ma petite question surprise. Parle-moi un peu de quand est-ce dans ta vie t'as découvert un peu l'univers Blade Runner, c'est-à-dire autant le premier film de Ridley Scott, que un peu les écritures de Philip K. Dick, quelque chose du genre. Ça monte à quand est-ce?
Je dois dire, c'est sûr que j'ai vu Blade Runner quand j'étais adolescent. J'allais emprunter aux vidéos du coin. J'ai vu la version, c'est sûr que j'ai vu la version plutôt, la première fois que je l'ai vu, c'était le Director's Cut. Donc, c'est pas la version avec la narration dont certains aiment, mais que la plupart n'aiment pas, qui était la première version qui a été faite de Blade Runner. Puis, donc, c'est ça, environ, je dirais, 15, 16, 17 ans. Puis après ça, je l'ai revu plus sérieusement en peut-être en mi-vingtaine. Et là, un coup, j'ai su que c'était Philip K. Dick. L'auteur m'intriguait. Je savais que c'est celui qui avait influencé Total Recall avec Arnold, qui était un gros fan d'Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Alors, je me suis décidé d'aller chercher le roman, puis je l'avais lu en français la première fois. Et donc, c'est de cette manière-là que j'ai vu la première fois le film, c'est ça. Peut-être plus comme un adulte, là, en mi-vingtaine, je dirais.
Puis du côté de Blade Runner 2049.
Ben, c'était avec toi, mon cher Sébastien, que c'était quand elle est sortie, dans les semaines qui ont suivi.
Il y a à peu près un an jour pour jour dans ces eaux-là. Ouais, parce qu'on l'a vu, toi et moi, peut-être quelques semaines après sa sortie en salle, au début
de
novembre.
Oui, c'était à l'automne. Et je me souviens d'avoir aimé plusieurs choses de Blade Runner 2049 et dont d'autres choses que j'avais moins aimées. En tout cas, moi, je suis tout le temps un peu chialeux, peut-être un peu trop, mais bon, j'avais des choses à redire dont on va se parler.
Ça tombe bien parce qu'on est là pour en parler, c'est ça qui est merveilleux.
Exactement.
Excellent, je peux peut-être y aller aussi de mon côté. Bon, pour répondre à ma sous-question tantôt que je t'ai posée, l'univers Blade Runner, quand j'ai vu ça, la version de 82 Ridley Scott, c'était grâce à mon père. Ce qui était amusant, c'est que lui, on allait souvent au club vidéo, lui et moi, puis de temps en temps, il avait envie de se faire sa propre soirée vidéo tout seul. Fait que ce qui était amusant, c'est qu'il louait toujours exactement les mêmes deux films. Il louait Apocalypse Now, puis il louait Blade Runner.
Wow, excellent.
Alors là, il prenait ces deux VHS-là, il allait dans le salon, dans le sous-sol, il regardait ça, puis des fois, je venais le rejoindre au début de Blade Runner, puis je sais pas pourquoi, le début m'intriguait, mais à un moment donné, je me levais, puis genre, j'allais jouer dehors avec mes amis, quelque chose de genre, où j'allais faire autre chose dans ma chambre, puis il finissait de regarder Blade Runner. Puis après ça, j'avais jamais vu le film au complet, jusqu'au moment où je suis allé passer le temps des fêtes en Abitibi, à Saint-Norbert-de-Montbrun, chez ma grand-mère. Alors, je commence à fouiller dans ces VHS. Là, je trouve Blade Runner, VHS, mais la version avec la voix off, en français. Mm-hmm. Alors là, j'ai pu voir Blade Runner à ce moment-là au complet, et ça m'a pas fait un pli. J'ai fait comme, ok, c'est-tu vraiment là-dessus que mon père capote? Ok, y a aucun goût.
Ça devait être à cause de la fin, là, bizarre.
Peut-être.
Là.
Ensuite, des années plus tard, j'arrive au cégep, et dans un des cours de scénarisation, le prof nous a donné à lire « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? » Et c'est là où est-ce que là, j'ai accroché. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce que c'était complètement différent du film de Ridley Scott. Mm-hmm.
Ouais,
moi, je me
fait.
Souviens d'ailleurs d'une scène dans le livre qui est absolument incroyable où, à un moment donné, Deckard s'en va dans son bureau. Puis là, il se passe de quoi à travers des conversations? Où est-ce que Deckard se met à paranoïer? Où est-ce qu'il se remet en question en disant « Mais est-ce que je suis un être humain? Est-ce que je suis un réplicant? » Et cette paranoïa-là, je l'avais trouvée tellement bien écrite que ça avait stimulé mon intérêt. Mais la série sur le Sunday, ça a été un peu plus tard, au milieu des années 2000, quand Ridley Scott a finalement sorti sur DVD et en salle aussi son fameux Ultimate Cut de Blade Runner, c'est-à-dire c'est la version Director Scott de 93, mais avec des effets visuels bon un peu plus travaillés, nettoyés, quelques petites scènes.
Il n'y a pas grand-chose.
C'est ça,
fait.
Quelques petites scènes qui avaient été retournées. Tu sais, la fameuse où est-ce que Decker abat Zora, tu sais, dans la version originale, c'est clairement un cascadeur, un homme avec une perruque qui passe à travers des baies vitrées, tandis que là, ils ont retourné cette fameuse scène-là avec Joanna Cassidy. Ils ont retourné une couple de scènes comme ça.
Il me semble qu'elle avait chialé la première fois, comme quoi qu'elle avait voulu refaire cette scène-là, puis on l'avait dit non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, puis elle avait trouvé ça ridicule. Le gars avec la perruque, ça se voyait, parce qu'en plus, elle meurt face à la caméra, puis elle tombe en pleine face, quelque chose comme ça. Puis elle perd la perruque, il me semble, le cascadeur, où il y a quelque chose là, que tu vois.
Elle avait tout à fait raison de se plaindre. Fait qu'heureusement, ils ont retourné cette scène-là, ils l'ont mis dans le montage final, et j'ai pu voir cette magnifique version-là au cinéma du parc, dans une salle comble. C'était hallucinant, à 10h le soir, puis on était dans toute notre espèce genre de mood Blade Runner. En plus, c'était une journée d'automne, là, ce qui pleuvait. C'était comme parfait pour regarder ça.
J'ai déjà vu une version moi aussi Blade Runner là, au cinéma du parc.
Tu sais, voir un film sur grand écran, on dit toujours que ça va changer les perceptions un petit peu, et ça a tout à fait...
Surtout Blade Runner, l'ouverture, le rythme, surtout du début, là, les premières minutes avec l'interrogatoire, avec Leon, la fumée, c'est le mouvement de la caméra.
La musique de Vangelis aussi,
c'est
assez inoubliable comme expérience. Et pour finir, c'est ça, c'est là où est-ce que j'ai gagné beaucoup d'admiration pour la version 82 de Ridley Scott de Blade Runner. Et bon, la fameuse question pour en revenir, j'ai vu Blade Runner 2049 en deux temps. Premièrement, avant qu'on le voie ensemble, je l'ai vu le soir même de sa sortie avec une de mes amies, Tina, chers auditeurs, vous l'avez entendu, avec moi dans notre épisode sur Boulder Ram. Alors j'étais avec elle, et tout le long du film, pendant les 2h30, j'étais en mode scénariste. Tout le long, je me disais, tu sais, mon cerveau travaillait, là, puis je me demandais, ok, comment ça va être quoi l'histoire, ça, comment on réussit à mettre les anciens personnages avec les nouveaux, quels anciens personnages on va voir.
Là,
En fait, je me demandais comment il y avait interrelié tous les trucs de l'ancien et le nouveau pour donner quelque chose de cohérent. Mm-hmm. Donc, j'étais beaucoup en mode analytique là-dedans. Mais, je dois dire que mon visionnement préféré, ça a été avec toi, la deuxième fois que je l'ai vu quelques semaines plus tard, parce que là, je savais exactement c'était quoi l'histoire, je savais comment les liens scénaristiques avaient été faits. Alors là, je me suis dit, ok, je m'assois, je regarde le visuel seulement. Je regarde ce que Denis me met devant devant les yeux. Je sais qu'il y a des longueurs, je sais qu'il y a des plans où est-ce que c'est comme une espèce d'œuvre d'art qui gagne juste à se regarder.
C'est une poétique, là.
J'ai regardé ça et je peux te dire, mon vieux, que 2h30, j'ai trippé. Juste en, en me focusant sur le visuel, pendant les longs mouvements de caméra qui semblent plus finir, je regardais chaque petit détail. Quel plaisir ça a été.
Et heureusement, cette fois-là, je ne chialais pas trop dans le siège.
Ouais, heureusement, tu as regardé ça pour la fin
du
film.
Oui, exactement.
Donc, ça s'est fait en deux temps et je dois dire que depuis qu'il est sorti en Blu-ray, c'est mon film par défaut. Quand j'ai envie de relaxer ou quelque chose de genre en soirée, après une longue journée, je me mets peut-être une demi-heure, 45 minutes de Blade Runner 2049, je regarde, je contemple et mon Dieu, que ça me relaxe.
J'ai
que
fait
je
ça avec le premier aussi. Le deuxième, j'ai pas eu la chance encore de le regarder trop longtemps. C'était seulement ma deuxième fois quand je l'ai revu un peu avant l'émission pour me préparer. Puis, en tout cas, mais merveilleux film. Ça le fait du bien de faire un deuxième visionnement
exactement.
Aussi.
Exactement. Puis le plus que tu pourras avoir, le mieux que c'est. Bref, c'est une expérience que je te conseille avec 2049.
Ouais, ben, évidemment. C'est un film à revoir et revoir.
Avant de se lancer vraiment dans le cœur de notre discussion, je peux peut-être y aller pour nos auditeurs qui se souviennent pas tout à fait. Je peux peut-être y aller avec un petit résumé de l'histoire. Et encore une fois, à nos auditeurs, j'aimerais faire un petit quelque chose parce que Marc-André et moi, on va beaucoup aller dans les divulgateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que le film contient certains punch qui gagnent à être révélés à la fin de l'histoire. Donc moi, je vous conseillerais, chers auditeurs, si ça vous tente, mettez pause sur l'épisode en ce moment. Allez regarder Blade Runner 2049 et revenez ici par la suite. Ok, c'est très rare que je fais ça, mais je vous le conseille énormément.
Il n'y a rien de plus plate que des spoilers, qu'on dit en anglais.
On n'aime pas ça, voilà. Mm-hmm. Faites pause et on revient immédiatement.
Chers auditeurs et auditrices, pendant cette attente bien involontaire de notre part, toute l'équipe du podcast Sans Commentaires ou Presque souhaite saisir cette opportunité pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Nous voulons aussi vous témoigner nos sincères remerciements pour avoir été à l'écoute de nos épisodes tout au long de l'année. Et sachez que nous avons une planification de nouveaux épisodes déjà très chargée pour 2019, avec une brochette d'invités tout aussi succulente. Mais pour l'instant, retournons à Marc-André et Sébastien pour en savoir plus sur ce qu'ils pensent du film d'aujourd'hui. Et c'est parti comme en 40!
Pensez qu'on fait pause?
J'espère pas.
OK. Ben, comme je disais, on va y aller avec un petit résumé de l'histoire, OK?
Allons-y.
Alors, ça va comme suit. Donc, 30 ans après les événements du film original, un policier de Los Angeles nommé K découvre, grâce à une série d'indices, qu'un enfant est né de l'union de deux réplicants, des êtres humains artificiels. Mandaté par ses supérieurs de retrouver et d'éliminer cet enfant pour préserver le bien commun et l'ordre, K découvrira pendant ses recherches des éléments qui lui feront remettre en question sa propre identité. Alors que les pistes de son enquête le mènent inéluctablement vers l'homme possédant toutes les réponses, un ancien Blade Runner du nom de Rick Decker. Pas pire, hein?
Ben oui, certain. Beau résumé. Faites ça en moins environ 10 lignes, c'est bien.
Excellent. Concis et précis.
Voilà.
Avant qu'on parle du scénario en tant que tel, moi, je voulais qu'on parle un peu des personnages. On va faire ça en deux temps, Marc-André. On va faire une première batch où est-ce qu'on va parler des nouveaux personnages amenés spécialement pour cette suite-là. Et ensuite, nostalgie oblige, on va parler des personnages qui reviennent depuis 1982. Parlant de nouveaux personnages, on peut parler de celui qui était incarné par le gars qui est le plus gros sur le poster, c'est-à-dire Ryan Gosling, qui incarne un personnage nommé K.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui, Marc-André? Alors, au départ, c'est un flic qui travaille pour la police de Los Angeles en 2049. C'est un Blade Runner aussi,
oui.
Qui est chargé de retrouver des réplicants. Encore, je sais pas si c'est encore du même modèle, les Nexus 8.
Non, j'ai lu tantôt quelques informations avant de m'en venir. Et ce sont pour la plupart des Nexus 8. Si je me souviens bien, les réplicants présentement, ce sont des Nexus 8. C'était des Nexus 6 originalement. On suggérait apparemment que Rachel de Blade Runner 1 était une Nexus 7 expérimentale, la première à pouvoir, et là, attention des spoilers, avoir des enfants.
Et ne pas avoir une durée de vie déterminée.
Et donc, la suite dans 2049, évidemment, il y a un saut dans le temps. Là. Il y a peut-être quoi, un 30 ans, je dirais, de différence.
Littéralement, parce que le premier se passe en 2019.
Oui, voilà. Et donc, on parlait de K. Déjà, parlons de son prénom, K, qui fait référence à Joseph K, ou en tout cas, le personnage de K, de Franz Kafka, apparu dans Le Procès et Le Château. Et comme K, qui est dans un peu des fois, Franz Kafka, c'est pas mal absurde, l'absurdité de la vie de K. Et donc aussi l'absurdité de la vie du réplicant nommé K, c'est le fait de pas savoir quand est-ce qu'il va mourir, d'avoir une vie un peu factice, une
exactement.
Vie illusoire, avec des faux souvenirs. Et la différence entre Blade Runner 1 et 2049, c'est entre autres que K, c'est qu'il est lui-même un réplicant.
Absolument. Écoute, il y a des réplicants dans les forces de police maintenant, carrément. Oui. On va y venir plus tard, mais je vais en parler tantôt parce que je te mets sur un autre sujet là-dessus. Mais effectivement, il travaille pour les forces de police. Puis si tu veux, je peux peut-être en chérir un petit peu.
Oui.
Parce que K, dans le fond, ça travaille sur deux plans un peu. Au travail, c'est un... En fait, il est extrêmement efficace dans son boulot. On va le voir tout à l'heure grâce à un petit extrait.
Travaille comme une machine.
C'est une vraie machine.
Ben oui.
Puis à l'extérieur du boulot, bon, il est tout à fait ostracisé. Parce que même quand il rentre dans le poste de police, il se fait souvent passer des petits commentaires en disant « Hey, espèce de machine, espèce de genre de skin job » ou quelque
chose
du genre.
Comme un mutant dans les X-Men.
C'est un personnage extrêmement seul aussi, qui a pas l'air d'avoir une grande vie à l'extérieur du boulot.
Son seul ami, c'est son partenaire qui est un hologramme.
Puis aussi, bon, j'imagine qu'un peu comme tout androïde, un peu conscient, bon, il cherche à savoir d'où il vient ou quelque chose du genre.
Oui, qui est un peu paradoxal.
C'est ça, donc c'est pas mal comme un espèce de modèle destiné à ne faire qu'une chose, c'est-à-dire travailler pour la police, puis tout le reste de son existence, ça a l'air plate. Il habite dans un petit mini appartement, il mange de la bouffe synthétique, il lit un petit peu, mais outre ça, ça a l'air extrêmement
triste
et plate.
Des fois. Hein.
Pour vraiment prouver ça, le fait qu'il est efficace dans son travail, on peut peut-être vous l'introduire grâce à un petit extrait. Ce que je voudrais montrer, c'est le tout début du film, alors que K s'en va en mission pour aller retrouver un vieux modèle Nexus 6 du nom de Sapper Morton. Et bon, ce réplicant-là n'a pas le droit d'exister. Il est jugé dangereux pour la société. Alors, une des missions des Blade Runners, c'est de tout simplement les éliminer. Donc, on va voir un peu comment K se débrouille dans l'exercice de ses fonctions. Alors, c'est parti, on écoute ça ensemble.
Êtes-vous Sapper Morton? Numéro de série NK68514.
Je suis éleveur.
J'ai vu ça. Vous élevez quoi?
C'est une ferme protéinique. Conçu par Wallace.
C'est ça l'odeur?
Je les cultive juste pour moi. C'est de l'ail.
De l'ail?
Tu veux y goûter?
Non, merci. Je préfère travailler l'estomac vide tant que le plus dur reste à faire. Il y a longtemps que vous êtes ici?
Depuis 2020.
Mais vous n'avez pas toujours été éleveur, pas vrai? Votre sac, c'est une trousse médicale de l'armée pour les colonies. Vous étiez où? À Calante?
Ça devait être violent. Tu comptes m'emmener pour qu'il jette un œil en dedans.
Monsieur Morton, si vous emmener était une option... Je la préférerais de beaucoup à l'autre. Vous deviez savoir que quelqu'un finirait par venir. Je suis désolé que ce soit moi.
Pauvre lui, c'est ça que je voulais dire. En fait, mon idée tantôt est revenue.
Oui.
C'était concernant le fait qu'il est lui-même un réplicant et il sait lui-même qu'il est un réplicant et il élimine sa propre, on va dire, race. Parce que à la fin du film, comme on va peut-être voir, ça, c'est un enjeu le fait qu'il est un réplicant et qu'il travaille pour des humains et que sa bosse, elle est bien une humaine.
Ben, il y a aussi les réplicants ont vraiment pas bonne presse dans cet univers-là parce que je sais pas si t'as eu la chance de voir les trois petits courts-métrages qui ont servi de prologue à Blade Runner 2049. C'est des petits coups de marketing qui sont sortis quelques semaines avant l'apparition du film en salle.
Okay.
Ben, dans le premier, qui est un très bon film d'animation, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Dans le film 2049, il y a certaines références à une grande pâle, à un blackout. Et ben, dans le premier film d'introduction, le petit prologue, on voit que bon, il y a eu vraiment en 2019 une aversion complète de la population humaine envers les réplicants. Il y avait beaucoup de violence, il y avait vraiment des espèces genre de groupes complètement d'extrême droite qui voulaient supprimer les réplicants. Alors les réplicants qui étaient là ont décidé de faire une espèce d'insurrection. Ils se sont emparés d'un silo qui contenait une ogive nucléaire, l'ont détonné. Ça a créé genre une impulsion électromagnétique qui a créé carrément un blackout complet sur l'Amérique du Nord, voire peut-être plus. Alors ça a créé une grande panne. Toutes les données informatiques ont été complètement éradiqué des disques durs, ça a complètement grillé. Donc voilà,
c'est la suite logique du récit en fait.
En effet. Donc c'est ça qui a vraiment créé cette aversion là. Alors c'est pour ça
parce qu'il est possible, excuse-moi de t'interrompre, il est possible quand même de s'expatrier ailleurs sur une autre planète parce qu'on en parle tout le temps des off-world colonies parce que dans le fond les au début les replicants ce sont des êtres qui sont dotés d'une plus grande force, d'une plus grande longévité, d'une plus grande résistance à la douleur. Alors, ils sont utilisés pour aller terraformer des colonies terrestres d'ailleurs. Je m'en souviens plus si c'est sur Mars. Entre autres, oui, sur Mars, parce que Mars était une obsession de Philip K. Dick et la destination pour tout récit de science-fiction de toute façon. Il y a, en tout cas, dans le récit sortie de Blade Runner, il y a une possibilité de sortir de la Terre. Là. D'ailleurs, c'est une obligation, mais ceux qui sont restés sur la Terre dans le récit littéral, le récit de Philip K. Dick, c'est le monde qui n'a pas assez d'argent pour s'expatrier ailleurs et qui sont pognés sur la Terre parce que, justement, il y a un fallout, justement. Donc, il y a des retombées radioactives qui empêchent les gens doivent se protéger. C'est plus le samedi à la plage, là, comme on peut dire.
Ben, c'est ça. Donc, ça, voilà, c'était la petite explication pourquoi les réplicants sont encore plus mal vus qu'ils étaient vus dans la version Ridley Scott. Mmh. Bon, on a parlé de K, tu l'as mentionné brièvement. Quand il rentre à la maison, ben, il n'est pas vraiment tout seul. À défaut d'avoir une compagne en chair et en os, eh bien, il va être rejoint à chacun de ses retours à la maison par une hologramme du nom de Joy. Joie. Mmh. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Est-ce que Joy, moi, j'en voudrais une chez nous, honnêtement.
Ben déjà, Joy, dans le c'est comme un acronyme pour Jerk-Off Instructions.
Ah oui?
Je sais pas si t'avais remarqué. Mais bon, alors peut-être que c'est ça, sont elles comme les replicants, comme Pris dans Blade Runner 1, qui est un modèle de plaisir, comme une prostituée, si on peut dire. Joy est une version de plaisir à la maison, une compagne, qui est une autre idée Philip K. Dickienne.
Mais à défaut de Pris, ce qui est le fun, c'est que si tu regardes à un moment donné, c'est que les settings de Joy peuvent être mis au goût du propriétaire, c'est ça qui est intéressant. Si tu regardes à un moment donné, quand K fait une petite modification au programme de Joy, il y a certains trucs qui peut changer, des préférences qui peut changer. Il y a une préférence qui est comme sexualité, puis il met ça à zéro. Pour pas que ce soit un modèle plaisir, mais qu'il soit plus comme une compagne ou
une coloc
ou une petite amie. Parce que Joy, c'est littéralement, elle est programmée comme ça pour que ce soit la petite amie de K. Elle agit en tant que telle quand elle rentre à la maison, elle lui fait un petit souper autographique, elle lui demande de lui faire la lecture, elle lui demande comment sa journée a été.
Qui est une illusion parce qu'en fait, elle lui fait à semblant qu'il mange un beau gros steak, je crois, puis finalement, lui, ce qu'il mange, c'est quelque chose de
genre
de
des
moins
pâtes
beau.
Transparentes, quelque chose de genre, ça n'a pas l'air.
C'est pas la première fois qu'ils vont faire ça, l'histoire d'illusion. C'est qu'elle va prendre part à donner un semblant de plaisir qui est factice encore. J'aimerais parler de Joy un peu, en fait.
Oui, ben vas-y, allons-y.
Ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, Joy, elle est restreinte dans ses mouvements. Et à un moment donné, un des upgrades du fait que, je ne sais pas s'il y a plus d'argent ce mois-ci, ou en fait, habituellement, dans le récit de Dick, tu as une prime quand tu retires, quand tu tues, en fait, un replicant. Je pense que c'est dans le film aussi. En tout cas, dans le roman, ça y permet d'aller s'acheter un mouton électrique, justement, plutôt une chèvre ou quelque chose,
c'est une chèvre, si je me trompe pas.
Pour remplacer, justement, l'illusion d'animal qu'il y avait, qui était un truc électrique. Donc là, lui, dans le fond, il y a un upgrade et ça lui donne une meilleure compagne. Sa compagne est libre de mouvement. Il peut comme la downloader sur un genre de petit un truc technologique.
Oui, le nom m'échappe, c'est pas un diffuseur, mais c'est un... En tout cas, peu importe. Mais
il peut le mettre dans sa poche, puis l'amener même avec lui, je crois, Joy, parce qu'il l'accompagne plus tard.
Dans les transports, au travail même,
ouais,
à plein d'endroits.
Oui, et c'est ça, Joy, en fait, c'est un produit en plus qui est une compagne. C'est ça, c'est comme quelque chose que tout le monde doit quasiment comme posséder. C'est comme la nouvelle technologie de l'heure, le jeu vidéo, si on peut dire, ou plutôt comme nous autres, là, c'est la réalité virtuelle. Mais je me demande si les humains ont aussi accès à Joy en tant que compagne.
Ça a l'air que moi, j'ai l'impression que oui, parce qu'il y a un moment donné où est-ce qu'on voit une espèce de...
Les publicités sont partout, en
c'est
plus,
ça, il y a
ville,
des publicités, on voit. Puis c'est comme, procurez-vous la toute nouvelle Joy ou quelque chose de genre. Puis je suis pas mal sûr que c'est ouvert à tous les marchés. Peu importe qui peut payer, que ce soit humain ou réplicant, ils peuvent se procurer Joy.
Donc, c'est un produit de plus pour endormir les gens. Ça sert à quoi? C'est ça. Ça sert à oublier le fait qu'ils sont dans un univers avec des retombées radioactives puis qui n'ont aucun futur, j'imagine.
Ça doit être tout à fait pour ça et un peu se consoler en rentrant à la maison de vivre dans une société, dans un monde tellement peu attirant et qui contient peu de lumière, qui contient peu de joie. Tu sais, il pleut encore là-dedans. S'il pleut pas, il neige. Tu sais, si dans ces moments-là, Joy peut aider à donner un peu de joie à ses propriétaires, eh ben tant mieux. Je pense que c'est pas mal ça.
Je te laisse continuer. J'ai d'autres choses à dire, mais je pense que j'allais bifurquer du sujet.
En fait, tu as dit que le modèle Joy était manufacturé par la accompagné d'un certain Neander Wallace.
Oui,
eh bien, on va y venir à Neander Wallace qui est interprété par Jared Leto là-dedans.
Mm-hmm.
Mais Neander Wallace, c'est un peu le substitut d'un des personnages qu'on avait dans la version 82 de Ridley Scott.
Le Tyrell.
Qui était Tyrell. Et bien maintenant...
Le concepteur. Ouais.
Exactement. Et bien là, ça le dit dans le texte d'ouverture où est-ce que, bon, la compagnie Tyrell Corporation a fait faillite, s'est écroulée. Alors, il y a un gars qui est arrivé, Neander Wallace, un industrialiste, qui a sauvé littéralement la Terre en offrant une toute nouvelle méthode
monde pour faire des cultures de nourriture, l'agriculture, etc. Sauf que c'est quelque chose à base de larves.
T'as des protéines, un substitut de protéines.
C'est
j'imagine.
Ça, mais sous forme de larves, littéralement. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça, il a sauvé un peu la population humaine grâce à cette forme d'agriculture-là. Et aussi, il s'est lancé dans la colonisation spatiale aussi, parce qu'il dit qu'il a découvert plusieurs autres mondes, sans avoir plus de détails. Et aussi, il s'est lancé dans la production de nouveaux réplicants qui ont la promesse de ne pas refaire les mêmes erreurs que les réplicants que créait Tyrell.
Donc, se rebeller.
Puis, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a un plan absolument incroyable dans ce film-là, parce que K, pendant son enquête, se rend pour la première fois dans les bureaux de Wallace. On voit les grosses pyramides de ce qu'était la Tyrell Corporation.
Oui, qui est un plan qui revient un peu, qui est un clin d'œil, en fait.
C'est ça, exactement, qui est un vestige du passé. Et là, derrière les grosses pyramides qui étaient déjà impressionnantes dans le premier film, il y a trois espèces de grosses, méga grosses tours en arrière de ça qui sont les bureaux de Wallace.
Comme un vieux monument historique.
En fait, c'est l'ancien versus le nouveau. Voici le vieil ancien. Maintenant, on vous offre quelque chose de plus gros encore, de plus grand.
Mais on respecte quand même l'ancien. On respecte quand même en gardant cette structure, cette infrastructure-là sur pied à place de la détruire, j'imagine.
C'est ça, c'est peut-être un trophée que Wallace s'est gardé en disant, regarde, j'ai conquis ça.
C'est comme sous forme de pyramide aussi, faut pas oublier. Donc, c'est quand même un symbole universel.
Ben, en effet. Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que ce personnage-là, il est aveugle. Et moi, j'ai l'impression que... je m'en vais un petit peu loin, ok, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de stigmate du personnage de Tyrell, parce qu'à la fin, dans le premier film, Tyrell, lorsqu'il rencontre le réplicant qui était joué par Rutger Hauer, Roy Batty, il lui crève les yeux. Alors là, c'est un petit peu une passation du péché de Tyrell qui s'en va vers Wallace, qui est l'équivalent de ce personnage-là. Je sais pas.
Qui est aussi un genre de prophète, parce que dans le fond, le gars, oui, c'est un industrialiste, mais en fait, il sauve l'être, l'espèce humaine de la mort d'extinction avec
l'agriculture.
Sa révolution agricole. Donc, en fait, quelque part, le fait, c'est un autre symbole, si on revient à la mythologie grecque avec Tirésias, qui est un autre prophète. N'est-il pas un réplicant, Wallace? Je le connais pas tant que ça, ce
personnage-là. En fait, ça n'est pas mentionné, puis c'est pas une piste qui est explorée dans le film, parce qu'il y a aucune référence ou aucun hint où est-ce que lui-même sera un réplicant.
J'ai pas étudié tant que ça le dialogue, là, ça se peut que...
C'est ça, je pense que c'est plus un humain autre.
C'est un être humain, un génie, là, un surdoué, en fait.
Exactement, là. Voilà. Okay. Puis Wallace, avant qu'on se tape un peu un extrait d'introduction avec lui, il y a aussi une dualité avec lui, parce que la manière dont il se présente, il a l'air d'une personne extrêmement zen, extrêmement calme. Il parle avec des longs monologues, tout ça sous une voix extrêmement calme et posé, mais quand il prend action, il va toujours avoir beaucoup de violence là-dedans. Dans la scène qu'on va regarder au moment, il donne naissance à une réplicante. Il sort de vraiment son sac de plasma.
La Matrix.
C'est ça, pour finalement lui ouvrir le ventre à un certain moment donné, juste pour faire prouver un point visuellement à ce qu'il est en train de dire. Et aussi, dans un autre des trois courts-métrages de prologue, il se passe exactement la même chose. Wallace s'en va rencontrer des gens. Il amène avec lui son bodyguard, qui est un réplicant. Et pour montrer aux autres à qui il parle le pouvoir qu'il a sur ce réplicant-là, il lui dit, ok, réplicant, trouve une arme. Alors le réplicant prend un verre, le casse, il y a finalement une espèce genre de
morceau de vitre,
un éclat de verre. Il dit, sacrifie-toi pour moi. Alors là, le réplicant s'ouvre la gorge. Et...
Ça fait très vilain, là, parce que Khorsa Doom, dans Conan, lui demande la même chose.
Exactement. D'où là la dualité, puis la violence qui rentre en opposition avec son allure zen, calme et posée.
Et qui vient aussi souligner le paradoxe du film. Les réplicants sont-ils pas plus humains que les humains en étant, parce que là, lui, avec cette cruauté incroyable de tuer quelqu'un juste pour donner un exemple. Et c'est une scène que j'ai pas aimé. Encore, on expose le corps féminin pour lui faire violence. Et
Que tu l'as pas aimé, cette scène-là, on va la regarder ensemble.
Allons-y,
qu'est-ce que t'en
penses? Pour la critiquer, certainement. Ça va me faire plaisir.
Alors, c'est parti. Je vous lance, chers auditeurs, dans la première fois où est-ce qu'on voit Neander Wallace lorsqu'il donne naissance à une réplicante pour se lancer dans un long monologue.
Cette contrée infertile, vide et salée, qui est juste ici. Ce néant immense entre les étoiles. Est-ce cela que nous devons changer contre le ciel? Je ne peux pas les faire enfanter, et Dieu m'en soit témoin, j'ai essayé. Il nous faut plus de réplicants qu'on ne pourra jamais en assembler. Des millions pour que nous puissions être des milliards de plus. Nous pourrions ainsi prendre d'assaut l'Éden. la dernière innovation de Tyrell. La procréation. La perfection perdue. Mais il y a un enfant. Emmène-le-moi.
Oui, monsieur.
Un peu mégalomane aussi, le bonhomme, hein?
Oui, là, si on voit ça. Voilà, en fait, cette scène, je sais pas, c'est de plus en plus de la difficulté avec le fait d'utiliser le corps féminin pour faire de l'art. Encore là, on voit une scène qui aurait pu être autrement faite, qui aurait pu... Je suis désolé, j'aime pas le fait qu'on...
Qu'on tue de sang-froid.
Ouais, ça fait juste, en fait, on veut juste souligner l'aspect cruel du créateur. Mm-hmm. Et là, malheureusement, on utilise le corps féminin, on le dénude et on lui fait violence pour juste faire une scène choc dans le film. Malheureusement, c'est une scène qui aurait pu être beaucoup mieux, malgré que le visuel était très bien fait. La direction photo, on en parlera plus tard, était incroyable. Malheureusement, est-ce que Jared Leto est aussi le bon acteur pour incarner ce rôle-là? Moi, je me demande.
J'ai deux petits points à te parler à propos de ça. Il y a eu des personnes alternatives qui ont été considérées pour le rôle de Neander Wallace. On va y venir tantôt. Okay. Parlant de Wallace, tout le long du film, il est accompagné d'un autre personnage, de son assistante personnelle, du nom de Love, L-U-V, ben, ouais. Amour. Et, ben, Marc-André, moi, j'aurais... besoin de te dire que je trouve que ce personnage-là, in extenso, joué par l'actrice Sylvia Oakes, c'est la carte cachée de ce film-là. Ah, honnêtement, oui? J'adore ce personnage-là et j'adore comment il est joué. Elle a l'air d'un Terminator, bien sûr.
Ouais, Lady Deathstrike.
C'est
aussi,
ça, Robert Patrick peut aller se rhabiller, mais mon Dieu que je le trouve bien joué. Elle peut être aussi calme que fatale, que belle, que charmante.
Que aussi émotive, là, on l'a vu là, pendant cette scène-là, qu'elle regarde elle-même, on a fait un petit plan, là, un plan rapproché vers elle, qui lui montrait aussi qu'elle a eu une petite secousse là, de quand il a coupé le ventre à la répliquant, inutilement juste pour démontrer qu'elle n'était pas capable d'enfanter. Bon,
en tout cas. Oui, bien sûr, aussi, il faut mentionner que Love est une réplicante, encore une fois, aussi, dernier cri.
Et qui est à la solde de Wallace, qui est une réplicante, une assassine, en fait.
Ça le devient de plus en plus à mesure que le film avance. Elle a l'air très corporative, très tailleur derrière son bureau, mais plus
elle
le film avance...
Elle fait des affaires, on la voit avec une cliente d'origine africaine.
Plus le film avance, parce que l'affaire, c'est que Wallace, lui, est mis au courant qu'il y a eu un enfant qui a été engendré par deux réplicants. Il veut cette fameuse formule-là. Il veut l'enfant pour être capable de répliquer ça, pour donner vraiment à ses machines la possibilité d'enfanter.
Et j'ai une question pour toi, je m'en souviens plus dans le film, quand est-ce que c'est révélé que Wallace sait que... C'est lorsque je crois que Ryan Gosling va faire des investigations,
exactement.
Puis justement elle brise cette rencontre d'affaires-là avec la femme africaine, je crois. Moi, je trouve que c'est un petit problème dans l'histoire, là. C'est quoi cette logique-là que... Lorsque quelqu'un va s'interroger à propos de ce dossier-là, il y a une petite alarme qui fait qu'elle est avertie que quelque chose, cette information-là devrait être gérée d'une autre manière. Donc, c'est pour ça qu'elle s'interpose auprès du commis.
En effet.
Mais cette information-là semble être nouvelle pour elle. Parce que là, ça lui donne le cue qu'il y a eu un enfant répliquant. Mais en fait, c'est ma question. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle sait que là,
normalement,
Wallace...
Normalement, oui, parce que après ça, c'est la scène de Wallace qui dit qu'il y a eu effectivement un engendrement d'une autre vie par des réplicants. Il veut le secret de ça. Alors, c'est là où est-ce qu'il lance Love sur les traces pour aussi faire son enquête, pour aller chercher soit les ossements ou bien aller vraiment trouver la clé aussi pour ramener à son patron, son créateur, cette clé-là sur comment faire en sorte que ses propres réplicants à lui puissent enfanter.
Okay, donc Love ne sait pas cette information-là. Elle le sait lorsqu'elle va prendre en charge de l'enquête, mais là, finalement, l'autre, son boss, Wallace, lui donne plus d'informations à ce sujet-là. Donc lui, il est au courant.
C'est comme ça que je l'ai interprété, en effet.
Okay, okay.
Mais tu sais que c'est simplement un genre d'élément déclencheur, ça aussi.
Oui, non, je sais bien, mais j'essayais de voir si dans l'intrigue, si ça fonctionnait bien, s'il n'y avait pas une anicroche à quelque part. Puis là, bon. Je ne l'ai pas vu assez souvent, c'était un de mes problèmes des fois.
C'est pas si pire, ça lance vraiment l'enquête comme il le faut. Ça envoie du moins, ça montre les antagonistes. Elle, c'en est une aussi. Mm-hmm. Puis voilà, ça donne un peu du piment à l'enquête.
Ben, aussi puisque c'est ça, c'est une enquête en fait aussi.
Ah,
c'est
littéralement.
Ça. Donc comme Blade Runner 1 est une enquête, celui-là aussi est une enquête. Et c'est ça aussi un peu qui est un peu problématique. Là, je ne sais pas si on va y revenir, là, en fait, de cette enquête-là. Du fait qu'il y a des longueurs qui fait que le spectateur oublie qu'il y a une enquête un peu. Et moi, je trouve que c'est un des problèmes du film.
Mais
en fait, cette enquête-là qui est un peu des fois mise de côté pour des
ça, parce que ça se transforme.
Des passages plus introspectifs, je veux dire, pourquoi. Mais il y a d'autres aussi personnages. En fait, il y a beaucoup de personnages dans ce film-là. Il y a beaucoup de personnages qui doivent avoir un peu de temps à eux pour être développés, pour que le spectateur s'identifie, au moins qu'il se situe dans l'histoire.
Ben, on peut en parler aussi. Regarde, juste avant, on peut peut-être parler brièvement du casting que Denis Villeneuve a fait, mm-hmm. qui est assez hallucinant. Honnêtement, on a une très belle brochette d'acteurs pour chacun de ces personnages-là. Effectivement, je suis aussi d'accord avec toi qu'il y en a beaucoup, mais ils sont tous bien joués, autant les principaux que les secondaires.
Mais tu parlais de Wallace tantôt, juste qu'on revient à Wallace un peu, on parlait de Jared Leto. Ouais. Et j'ai lu que David Bowie aurait pu, avant sa mort, être considéré comme un potentiel un potentiel acteur pour donc vieillir le rôle. Moi, je pense que c'est ça qui manque. C'est qu'il manque ce rôle-là. Le Jared Leto, malgré qu'il approche la cinquantaine, il a un babyface un peu style Johnny Depp peut-être ou quelque chose comme ça. C'est une rockstar maintenant,
c'est
Jared Leto.
C'est peut-être pour ça la barbe ou je sais pas, pour le faire vieillir
un peu. Le mettre plus sage, mais il y a un problème, je trouve, avec le casting par rapport à Jared Leto. C'est juste c'est un autre bon acteur, là, un A-list actor pour aider le film. Mais bon, donc c'est ça, parlons des personnages.
Sinon, dans les grosses pointures aussi, dans un rôle un peu plus secondaire, ben, il y a la fameuse Robin Wright aussi, ouais. qui est là, qui joue le rôle de Joshi, qui est la boss directe de K. Mm-hmm. Et voilà, ben, c'est elle qui va lui donner ses missions, parce qu'elle aussi, elle découvre en première ligne qu'il y a eu un enfant qui a été généré par des réplicants. Ça ne peut pas se passer comme ça. Elle est là pour protéger l'ordre établi, les croyances établies de la société. Si ça s'est découvert, ça risque de créer un précédent.
D'enclencher une guerre entre réplicants et humains, que je lisais, en fait, parce que j'ai fallu que j'aille, à cause que l'histoire est très longue et très diffuse, j'ai eu besoin d'aller lire la structure narrative sur Wikipédia pour mieux...
Je pensais que t'avais acheté la novelisation de Blade Runner 2049.
Est-ce qu'ils en ont fait un? Parce que c'était supposé être considéré pour Blade Runner 1 et Philip K. Dick avait refusé un contrat incroyable de genre quelques millions de dollars pour plutôt avoir juste 100 000 pour que ça soit Do Android's Dream of Electric Sheep qui soit le livre officiel vers lequel les lecteurs intéressés pouvaient aller lire. Fait que là, si tu me dis qu'il y a une novelisation de 2049, ça serait vraiment un genre de mouvement
commercial. Je ne le sais pas à 100%, mais d'habitude, dans le marketing relié à un film, il y a toujours une novelisation.
L'auteur n'était plus en vie pour refuser ce type. En tout cas,
c'était plus facile à faire passer comme décision, en effet.
Oui, tout à fait.
Donc, elle, Joshi, elle apprend ça et elle va donner la mission à K de retrouver cet enfant-là et de le neutraliser, de l'abattre, parce qu'on essaie de mettre ça en dessous du tapis. Alors, on peut peut-être regarder cette interaction-là entre K et Joshi. C'est le fameux moment où est-ce que la mission est donnée à K. Parfait. C'est parti.
C'est mon job de maintenir l'ordre. On est là pour ça, on maintient l'ordre.
J'efface les traces.
Tout doit disparaître.
Même l'enfant.
Toutes les traces. T'as quelque chose à ajouter?
J'ai jamais retiré une chose qui est venue au monde.
Quelle est la différence?
Venir au monde, c'est avoir une âme, je dirais.
T'es en train de me dire, non?
Je savais pas que c'était une option, madame.
Excellent. Hé, tu t'en tires bien, même si t'en as pas.
Quoi donc, madame?
Une âme.
Donc, la mission est donnée à K par la femme la plus plaisante au monde, en fait, qui est jouée par, encore une fois, Robert Wright.
Robert. Parce qu'elle a une coupe garçon un peu. Robin,
merci de m'avoir dépanné là-dessus. Elle est toujours aussi plaisante puis toujours pas froide comme un glaçon,
ouais,
cette femme-là.
Ouais, elle sourit rarement.
C'est ça, on dirait que depuis qu'elle est dans House of Cards ou pas mal avant, il me semble que ça fait très longtemps que je l'ai pas vue sourire. Moi, comme je disais, j'ai tellement hâte qu'elle accepte un rôle dans une comédie romantique pour la voir sourire, parce qu'il me semble que maintenant elle est froide comme un glaçon, c'est incroyable.
Il faudrait Hugh Grant là, avec son sourire. De British.
S'il y a quelqu'un qui peut lui redonner le sourire, c'est bien Hugh Grant, ça.
Fait que ouais, Robin Wright, premièrement, son personnage, c'est l'enquêteur archétypal, là, de celui qui boit de l'alcool, un peu style Gotham City ou New York City, bon. Puis, tu sais, elle est cruelle, c'est un personnage qui est
Elle est un peu chiant, tu sais, à la fin, il dit, genre...
C'est de masquer des preuves, là, de détruire des choses.
Ouais, il dit, c'est ça, tu te débrouilles très bien sans quoi une âme, parce que ma foi, c'est bien chiant. Ouais. Je m'en vais me faire, genre, une autre mission pour toi, risque de ma vie d'Android, puis tu me remercies comme ça, hey, va te faire voir.
Plus tard, on va apprendre. Elle est connivence, je crois, avec Love, avec l'assassine, là, la Lady Deathstrike, là, qui vient m'emmener lorsqu'elle rentre, puis elle, de toute façon, cette scène-là, il faudrait qu'on la reparle. Bon. Mais quand elle rencontre Robin Wright, il y a un moment aussi qu'elle dit, il y a comme quelque chose, il y a un moment de dialogue qui malheureusement m'échappe, mais qui donne comme idée que la police, dans le fond, est dans la main, elle joue le jeu de Wallace, là.
Peut-être. Mais aussi, il y a un autre moment diamétralement opposé où est-ce que Yoshi se rend... Hey, c'est un tongue twister. Yoshi se rend à l'appartement de K, commence à vider sa bouteille de vodka, puis considère, pendant un bref moment, se le taper. Elle dit « Qu'est-ce qui se passerait si je finirais ce verre? » Puis là, lui, un peu gêné, ne répond pas ou répond quelque chose d'un peu boboche qui fait comprendre qu'il ne veut pas s'envoyer en l'air avec elle.
Ah, il ne veut pas être qu'un objet sexuel.
Donc, c'est ça, un petit moment d'humanité.
De pas de la répliquant, de plaisir.
C'est ça. Donc, un petit moment d'humanité chez notre ami Yoshi.
C'est un personnage qui est trop nébuleux. Je sais pas, ses moments à l'écran... premièrement, j'aime pas le acting. Elle se choque, elle est en colère rapidement. J'ai pas aimé le acting de Robin Wright, comme j'ai pas aimé le acting de Jared Leto. Je trouvais, pour différentes raisons, mais bon. C'est un rôle qui doit être rempli, puis on a mis une face là, c'était Robin Wright.
Donc, mais c'est quand même une phase de qualité, c'est ça qui
ouais,
est
ben oui.
On a pas mal terminé de faire le tour des nouveaux personnages qui méritaient mention. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais si on se donnait un peu de nostalgie puis qu'on retournait directement en OG 1982 pour parler de quelques personnages qui font le saut de la version 82 jusqu'en 2049?
Mm-hmm.
On fait-tu durer le plaisir ou on fait pas durer le plaisir?
Je te laisse aller.
Ok, on va faire durer le plaisir. Ok, on va parler d'un personnage extrêmement secondaire dans Blade Runner, l'original, qui est joué par Edward James Olmos.
Mm-hmm.
L'homme à la moustache. Gaffe. On va parler de Gaffe.
Mm-hmm.
Ce personnage-là revient pour une petite scène où est-ce qu'à un moment donné, il y a K qui commence son enquête et là qui s'en va voir des gens qui étaient reliés aux fameux ossements qui ont été trouvés d'une réplicante.
C'est une référence à Citizen Kane quand il s'en va voir Joseph Cotton dans la résidence de personnes âgées un peu. Là.
Peut-être. Alors là, il se met à parler à Gaffe qui était un ancien... je pense pas que ce soit son partenaire, mais qui était un ancien collègue dans les Blade Runner, le Rick Decker qui mm-hmm. était le héros de Blade Runner de 1982. Lui, c'était facilement reconnaissable parce que son personnage parlait la majorité du film une espèce de slang, de mélange.
Qui avait travaillé lui-même, exactement. Qui avait développé lui-même, en fait, l'acteur.
On voit Gaff qui revient, qui se fait interroger par K, puis Gaff a l'air du Colonel Sanders là-dedans, c'est merveilleux. Tout habillé en blanc, moustache blanche, les longs cheveux blancs en arrière, il mange juste les lunettes. Puis
non, c'est plus, est-ce qu'il fait encore de l'origami
oui.
sur place?
Ah, oui, bon. En fait, il est en train de faire un mouton,
commerce.
Littéralement.
Ah bon, petite référence au roman
tout
de Dick.
Tout à fait. Donc, il est là, il y a une petite conversation. Moi, je trouve ça plate, genre qu'il utilise pas plus son espèce de slang. Aussi.
Oui,
moi,
c'est
j'aurais
ça,
adoré
c'est un
que
c'est personnage
cette...
qui a travaillé beaucoup dans le premier, mais dans le deuxième, c'était peut-être un des seuls acteurs qui restait vivant du premier.
Parce que dans mes souvenirs, j'ai regardé la version originale il y a pas longtemps, mais dans mes souvenirs, je pensais que Gaff, tout le long du film, parlait juste son espèce de slang, qui parlait pas un mot d'anglais. Finalement, à la fin, il fait. Mais c'est pour ça que je me suis dit...
Ah oui, il fait son dernier quote, là. En tout cas, il y a un petit quote final intéressant. Là,
c'est pour ça que je me suis dit, ça aurait été le fun que dans Blade Runner 2049, Gaff parle juste son slang, puis que ce soit sous-titré. J'aurais trouvé ça intéressant, ça peut être le fun.
Tout à fait. Pas grand-chose à dire sur Gaff, autre que les références. En fait, j'ai beaucoup de références en fait à d'autres films qui, souvent, me faisaient sourire et où me faisaient pas rager, mais me disaient, bon, t'aurais pu faire autre chose, mm-hmm. Monsieur Villeneuve, à place de faire ton geek et référer à plein d'autres films que tu voulais m'épluguer. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai pas grand-chose à dire sur Gaff.
Plus que ça, dans le fond, on va embarquer sur...
Plus sur Deckard, oui.
Là, on a un personnage, bon, sur lequel on va avoir beaucoup de viande autour de l'os, mais on peut parler de Deckard, Rick
oui,
Deckard.
Harrison Ford, le vrai acteur.
Intéressé, hein? Plutôt interprété par Harrison Ford, oui. Qui est de retour encore une fois 30 ans plus tard.
Tout à fait.
Que dire sur Deckard? C'est un peu triste aussi son affaire. C'est un personnage maintenant qui est tout à fait en exil, qui est vraisemblablement, bon, le père de ce réplicant-là qui aurait été généré de manière naturelle via une grossesse. Donc, bon, Deckard, comme je disais, bon, il est en exil carrément. Il a fait ça pour protéger sa progéniture.
C'est un sacrifice parce que ce que j'ai cru comprendre, et il a fallu que j'aille le lire, là, c'est que dans le fond, Deckard, de commun accord avec Rachel, jouée par Sean Young dans le premier, lorsqu'ils ont su qu'elle était enceinte pour protéger l'enfant, l'existence de l'enfant, et là, lui-même s'est exilé, est allé à quelque part, peut-être pour faire une fausse piste pour des enquêteurs ou pour des futures enquêtes quelconques, et a laissé Rachel à son amour, j'imagine, vivre sa grossesse, qui est malheureusement, elle est morte en couche.
Eh oui, c'est triste, ça.
Oui,
c'est
tout ça. Puis donc, il n'a pas vu. Je crois qu'il a vu l'enfant. Je pense qu'il l'a vu, l'enfant,
mais peut-être,
dans les dialogues.
Peut-être très brièvement. Effectivement, ouais. Il l'a vu, mais il est parti peu de temps après pour ouais. brouiller les pistes. Puis, il a renseigné aussi aux deux à brouiller les pistes aussi pour faire en sorte que l'existence de cet enfant-là soit...
Ben, il n'a pas pu l'apprendre aux deux parce qu'elle est morte en couche. Donc, il a pu l'apprendre à cette fille. Et c'est ça aussi, c'est un peu nébuleux dans l'histoire parce que là, il y a des dialogues, on dirait, qui contredit un peu l'origine, pas l'origine, mais les décisions qu'il a dû prendre pour s'exiler. Moi, c'est un truc que je trouve qui aurait dû pas être plus exploité, mais il manque des petites lacunes, je trouve, dans l'histoire.
Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Donc, Decker est retrouvé à Las Vegas par K, à peu près vers la moitié du film, ou un peu plus. Alors là, bon, Decker, effectivement, c'est un personnage tout à fait reclus, qui est à ses petites affaires. Je pense qu'il est dans l'élevage d'abeilles ou quelque chose de genre, la production de miel, ou je sais pas trop, lorsque K découvre des ruches. Oui, alors lui, bon, il veut vraiment faire profil bas jusqu'à la fin de ses jours. C'est le contrat, comme tu mentionnais, qu'il avait pour assurer la survie de son enfant. Mm-hmm. On peut peut-être parler, écoute, le fameux débat qui est né depuis des années, Marc-André, on peut peut-être le clore immédiatement, ou du moins donner notre version des faits, parce que le premier Blade Runner a soulevé l'ambiguïté que est-ce que Deckard est un être humain ou est un réplicant? Alors, il y a des pistes qui prouvent peut-être qu'il est un réplicant, qui prouve peut-être encore une fois qu'il n'est qu'un humain. C'est libre à l'interprétation des spectateurs. C'est ça qui est merveilleux dans cette petite énigme-là.
Ouais.
Et moi, je voulais savoir un peu, bon, écoute, es-tu d'accord avec le fait que c'est un humain ou plus un réplicant?
Ben, les indices qu'on nous donne dans Blade Runner 1, c'est que on peut suggérer en fait que Deckard est un réplicant à cause de l'origami, l'animal, la licorne faite en origami par Gaff, le fameux personnage dont on parlait tantôt. Et donc, puisque Deckard, dans la version Director Scott, faut bien le préciser, il a un moment de rêve, il a ce qu'on considère comme un rêve, il rêve à une licorne, et donc, s'il rêve à une licorne, si quelqu'un lui met une licorne au bout de sa porte à la fin du film, c'est que quelqu'un connaît ses pensées ou connaît peut-être un rêve récurrent qui a été implanté par des faux souvenirs, et donc, dans ce cas-là, il pourrait être un réplicant. Je crois que Ridley Scott est allé dire plein de fois en interview, en entrevue, que c'était bel et bien un réplicant. Mais là encore, l'ambiguïté demeure, je crois. Comment dire, l'interprétation est libre pour le spectateur. Je crois que c'est la meilleure version.
Oui. De mon côté, bon, ça fait pas de doute que c'est un réplicant, parce que bon, il y a plein de traces, autant dans la version originale de 82 que le Director Scott. À un moment donné, on voit toujours les réplicants, une espèce de petite lueur dans les yeux, un peu comme des chats.
À un certain
moment donné, Deckard est avec Rachel dans son appartement, il est en arrière-plan, il regarde Rachel, il y a exactement la même lueur dans les yeux.
Ouais.
Comme tu le dis, les rêves de licorne qui ont été vraiment implantés dans la tête des réplicants, c'est autre chose. Mais moi, ce que j'aime bien là-dedans pour cette théorie-là, qui est un réplicant, elle est bien amenée un peu symboliquement dans Blade Runner 2049. Parce qu'effectivement, pendant tout le film, le scénario nous amène sur une fausse piste, celle que K serait l'enfant de Rachel et de Decker. Finalement, c'est révélé, comme tu nous l'as spoilé gracieusement, que ce n'est pas le cas.
On avait dit que les spoilers étaient corrects.
Mais ultimement, c'est symboliquement le cas que Decker serait le père de K. Parce que, bon, premièrement, on garde en tête qu'en 1982, dans Blade Runner original, bon, Decker, c'est un réplicant. Moi, ma théorie, c'est que dès que le film commence, Decker, c'est supposé être un Blade Runner retraité, tout ça, ce n'est pas le cas. Dès que le film commence, Decker vient d'être activé. Decker, c'est un test, c'est un projet pilote de la police pour voir si des réplicants sont capables de mener une enquête policière jusqu'à la fin, parce que peut-être que la police n'a pas assez de ressources. Les policiers, ça prend trop de temps à les former pour qu'ils aient dans les rues, donc ils ont commencé avec peut-être la Tyrell Corporation à vouloir faire un partenariat pour mettre des androïdes comme force policière. Alors là, ultimement, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du premier film, Decker réussit. Il réussit à neutraliser Roy Batty et sa gang. C'est parfait. Ça, une fois que la police s'est rendue compte de ça, ça a donné le feu vert pour que ce projet-là de mettre des réplicants dans les forces policières, même de les convertir en Blade Runner, se soit entériné. Donc, ça a donné naissance, ça explique tout à fait la raison que K est maintenant dans les forces policières. Donc, symboliquement, c'est un espèce de legs ou de progéniture, si on veut, dans le but que K soit là, laissé par Decker. Donc, un peu, c'est ma perception des choses sur le fait que Deckard, pour moi, a toujours été un réplicant et ça a amené ultimement, bon, à l'implantation des réplicants dans les forces de police et donc l'existence de K lui-même. Alors voilà, donc une fois que K a retrouvé Decker, ben Decker un peu à contre-cœur décide par la force des choses bon de devoir s'allier ou collaborer avec K dans son enquête. Et ben les deux vont partir vers une course folle pour trouver la vérité. C'est ça qui est bien amusant.
Oui, en fait la course folle va s'arrêter assez vite quand ils vont se faire repérer parce qu'ils iront pas trop loin, ils vont rester un peu dans le
se fait peut-être à peu près 3 mètres par 2 mètres.
Oui, tout à fait, c'est ça, ils vont se faire repérer assez facilement en fait à cause de K, j'imagine que doit avoir un signal sur lui vu qu'il est pas un androïde parce qu'on n'est pas un androïde mais plutôt un réplicant. On peut pas les méprendre en fait entre un être humain et c'est ce que je voulais dire tantôt avec Deckard, c'est que Deckard, bien qu'il est un réplicant, bien que tu dis qu'il est un test pour savoir si les réplicants sont capables de chasser d'autres réplicants, en fait, il est lui-même obligé quand même d'utiliser le Void Kampf, qui est un outil pour déterminer si un réplicant ne passe pas pour être un être humain. C'est de même qu'il est capable de savoir que Rachel, dans le premier, est une androïde, ou en tout cas, est un réplicant, elle-même le savait pas. Alors, bien qu'il ait un projet pilote justement pour la police, si c'est cette théorie-là, si elle peut se tenir, en fait, s'il a besoin quand même des mêmes outils qu'un être humain, je sais pas qu'est-ce que ça peut ajouter son apport à la police en termes d'efficacité. En fait.
Ah, ben c'est simplement le nombre. La police veut du monde dans leur uniforme, alors ils vont demander à des réplicants de le faire pour eux autres.
Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Alors c'est ils simplement sont capables de remplacer...
Exactement. Puis anyway, leur capacité de déduction ou d'efficacité à l'enquête, ça aussi, ça peut être programmé en laboratoire ou quelque chose du genre aussi. Mm-hmm. T'sais, fait que tout le monde est gagnant là-dedans.
Ou être amélioré justement comme une nouvelle version de Nexus, puisque ça y a pris, je crois, environ une heure ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus dans le dialogue qu'est-ce qu'on dit, mais ça y a pris près d'une heure pour que Rachel, elle, qui est non pas une Nexus 6, mais une Nexus 7, une version expérimentale, pour qu'il détermine si elle est elle-même une réplicante ou pas. C'est pour dire qu'on peut améliorer, oui, les réplicants. Donc, on peut améliorer une version de Deckard qui devient K, qui est un Nexus subit.
Parlant de l'interaction entre Deckard, qu'on avait hâte de revoir, et K, ben, je peux peut-être proposer, Serge Auditeur, qu'on regarde un petit extrait d'une de leurs interactions, alors que les deux, après un certain petit affrontement, ont découvert qui ils étaient. Deckard a découvert que K n'était pas envoyé pour le retirer. Eh bien, on le regarde un peu, qu'est-ce que ça donne?
Il est arrivé quoi à l'enfant? Qui l'a placé à l'orphelinat? C'est vous?
Je suis parti bien avant ça.
Vous avez pas connu votre propre enfant? Pourquoi?
Parce que c'était ça le plan. Je leur ai montré comment embrouiller les pistes, couvrir leurs traces. Tout le monde avait un rôle, le mien c'était de m'en aller. Puis la grande panne a fait disparaître toutes les données. Même si j'avais essayé, j'aurais jamais retrouvé l'enfant.
Le vouliez-vous?
Pas vraiment.
Pourquoi?
Parce que nous étions pourchassés. Je ne voulais pas que notre enfant soit retrouvé, démembré, disséqué. Pour aimer quelqu'un, des fois, il vaut mieux devenir un étranger.
Et parlant des derniers personnages, dans le fond, originaux, on peut peut-être parler de Rachel, qui était jouée à l'époque par Sean Young, qui fait, d'une certaine manière, un petit caméo de quelques secondes dans une scène clé du film, lorsque Decker a été capturé par Love et Wallace. Et ben Wallace fait un autre long monologue pour essayer de tenter Decker pour qu'il lui donne les informations qu'il a besoin. Il essaie de le tenter avec une reproduction de Rachel telle qu'elle était en 1982 ou bien dans le bon vieux film original. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça?
Ben là, tantôt, tu mentionnais les longs monologues de Wallace. Tu as l'air à mettre ton point là-dessus. Y a-t-il un problème avec les monologues de Wallace?
Ah, ça s'en vient. Je vais en parler tantôt.
Oui, tout à fait. Excusez, on va revenir au sujet. Qui était donc, Sean Young. Écoute, c'est un personnage qui revient d'une manière un peu modifiée, là, qui est une manière, on l'a rajeuni de manière
parce qu'il n'était pas vraiment en shape pour reprendre le rôle tel que le scénario en avait besoin.
Oui, elle avait près de la soixantaine, peut-être, Sean Young. Mais en tout cas, je sais qu'elle a formé une jeune actrice pour faire son rôle, pour acter
comme
elle. Pour
la capture
elle,
de
peut-être.
Mouvement, c'est ça.
Oui, parce qu'elle avait très bien réussi son rôle en tant que Rachel. Super personnage, en fait. Vraiment un super personnage. Et malheureusement, en termes de personnage féminin, on n'a pas réussi, je trouve, dans Blade Runner 2049, à avoir un personnage, malgré qu'il y a plein de personnages féminins dans ce film-là, on n'a pas réussi à trouver... avoir un personnage aussi poignant que la situation de Rachel qui découvre qu'elle est une réplicante. Il n'y a pas d'autre personnage que elle qui a ce problématique-là. C'est comme de savoir que dans le fond, tu as le cancer parce qu'elle va mourir dans... En fait, le maximum, c'est 4 ans pour un réplicant. Donc, elle ne sait pas c'est quoi. C'est ça la raison pour laquelle elle va solliciter Deckard dans le premier. C'est pour savoir dans combien de temps est-ce que tu as vu dans mon dossier combien de temps qu'il me reste. Puis c'est ça qui est poignant dans toute l'histoire de Blade Runner. C'est que les réplicants, en fait, ils ont une vie un peu comme quelqu'un qui a le cancer, comme je fais l'analogie avec ça.
L'essence programmée.
Exactement. Et c'est ce que je trouve qui manque un peu. Je veux pas avoir l'air négatif avec Blade Runner 2049 parce qu'il réussit à un paquet de niveaux, mais je trouve que l'aspect émotif, l'aspect poignant là de certains rôles manque à l'appel. Puis on aurait eu besoin d'un personnage comme Sean Young justement dans ce rôle-là. C'est Deckard qui a ce rôle-là finalement, qui est le personnage, que le spectateur auquel il peut s'identifier parce qu'il a encore l'ambiguïté d'être peut-être encore un humain. ce qui est peut-être un problème aussi avec le film, c'est le spectateur a peut-être des difficultés, en tout cas moi j'avais des difficultés à m'identifier auprès de K, qui est dès le début plutôt un réplicant, mais qui est l'équivalent d'un non-être, qui est un être artificiel. Alors quel être humain peut s'identifier à un être artificiel qui tue son propre, de manière cruelle, qui tue son propre, his own blood, sa propre race?
Oui.
Donc c'est Harrison Ford qui vient un peu ramener le côté humain, plutôt le côté identificatoire du spectateur auprès du personnage. Du seul personnage, en fait, c'est le personnage de Deckard. Et donc, Deckard est, à cause de son sacrifice, à cause du fait, c'est ça, qu'il a sacrifié quasiment 30 ans de sa vie à rester dans un genre de vieux casino pour protéger sa progéniture qu'il n'a jamais vue ou qu'il a peut-être vue quelques semaines, voire des mois, peut-être. Alors, c'est le personnage auquel le spectateur, après quasiment 2 heures, 1h45
à peu près,
de
oui.
film, auquel enfin on peut auquel on peut enfin s'identifier. Alors, excusez-moi de mon long monologue à la Wallace.
C'est ça. Au moins, il était intéressant. Eh, hey, écoute, on est vraiment sur les blocs de départ parce qu'on, je sens qu'on a hâte de parler du scénario, des bons côtés, mauvais aspects.
Ah oui, c'est ce que j'aime parler.
Eh ben, on peut peut-être se lancer immédiatement là-dedans.
Parfait.
Selon toi, est-ce que c'est une bonne intrigue? Est-ce que l'attente a valu la peine côté scénarisation?
Je trouve que l'histoire est un peu diffuse. Donc, des fois, on s'éloigne, des fois, on revient. Et ça, c'est entre autres ce dont je viens juste de parler, le problème d'identification du spectateur auprès d'un personnage spécifique, parce qu'on a de la misère à s'identifier auprès de K. Alors oui, c'est ça, l'intrigue, je trouve, a de la difficulté à emboîter le pas et à maintenir le spectateur dans le suspense de la chose. On s'éloigne pour nous donner du visuel, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est un des films les plus, on va dire, de nos jours. On trouve visuellement le film le plus innovateur, je dirais, peut-être pas l'innovateur, le plus grandiose en termes visuels, qui nous donne un peu aussi un semblant de qu'est-ce que c'était, on va dire, les films qui donnaient le temps de les regarder, comme les films
donc
des années 80.
Dit, ça. Oui. Ben, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. C'est, grosso modo, je trouve que la prémisse, elle est bonne. Juste qu'on a une bonne introduction de personnage, on a un bon élément déclencheur, ça fonctionne bien. C'est peut-être au niveau des péripéties qui prennent peut-être du temps à arriver. Mm-hmm. Mais entre ça, on a du très beau visuel, comme tu l'as souligné. C'est correct, parce qu'au départ, Blade Runner, autant que Blade Runner 2049, ce sont ce qu'on dit en anglais des art house movies. Ce sont des films artistiques. Ou est-ce que c'est le visuel qui va prédominer sur le scénario? Donc, le scénario, ben, ça reprend un petit peu comme l'original était, c'est-à-dire c'est un film néo-noir ou noir-tech, comme on dit, ou tech-noir, comme on dit, excuse-moi.
Néo-noir, ou tech-noir,
c'est ça, j'aime bien le tech-noir.
Ouais.
Et c'est ça, on prend un enquêteur, un flic, qui s'en va vraiment tenter de résoudre un cas dans lequel il va avoir des trahisons. Encore une fois, les ennemis vont devenir des amis, et les amis vont devenir des ennemis, et vice-versa. Ça reste conventionnel, c'est correct. Il y a quelques moments où est-ce que, bon, j'aurais coupé certaines scènes ou bien j'aurais tenté de simplifier un peu la chose parce qu'on sent que les scénaristes ont vraiment voulu nous en mettre plein la vue, ont vraiment voulu peut-être complexifier la chose pour faire comme « Ah, vous voyez qu'on est capable, genre, de concevoir des enquêtes dans lesquelles il y a plein de rebondissements puis il y a des trucs auxquels vous vous attendez pas, dans lesquels on sort vraiment de la structure de ce que vous avez déjà vu des spectateurs avant. » Aussi, il faudrait parler, ben, côté scénario, Ridley Scott et son équipe derrière ça sont allés chercher une valeur sûre pour concevoir un peu la colonne vertébrale de ce qu'était Blade Runner 2049. Mm-hmm. Ils sont allés chercher ton préféré Hampton Fancher, un des co-scénaristes de l'original.
Il a rien fait autre que ça, donc je peux pas vraiment trouver. En plus, surtout que son scénario a été repris par David Peoples, donc c'est pas le.
Ah oui, mais apparemment, Tim Peoples l'a repris, ça valait pas cher la livre, la version de Fancher, apparemment.
Je l'ai jamais lu, non, mais je sais que Philip K. Dick avait détesté la première version du scénario de Blade Runner, n'avait pas aimé la version de Fincher.
Okay.
Et je crois que Ridley Scott, c'est ça. Un coup que la version de Fincher avait été, parce que il a été un des grands, était très vocal derrière ce projet-là, quand même, bien qu'il était que le scénariste, il a quand même été un de ceux qui a parti le projet. Puis à partir de là, on a pris un peu son scénario et on l'a utilisé pour l'améliorer. Mm-hmm. Chose que David Peoples a faite. Je crois qu'il a amélioré un paquet de trucs, dont le dialogue avec Roy Batty. J'avoue que je connais pas exactement la part des deux. Mais je savais pas si c'était l'influence de Fincher dans le deuxième scénario de 2049, s'il a écrit vraiment ou si on a été chercher comme ces personnages qu'il a créé dans le premier scénario.
C'est ça. En fait, Fincher, tu vas la rire, OK? Parce que Fincher a une réputation de pas travailler selon les méthodes traditionnelles. Donc, quand Ridley Scott a voulu produire, parce qu'au départ, Ridley Scott devait aussi réaliser Blade Runner 2049, mm-hmm. bon, il est allé allé voir son ami de la première heure, Hampton Fancher, pour lui demander « Peux-tu me faire une première version de cette suite-là de Blade Runner? Voici telle idée. Je veux qu'il y ait tel twist. » Alors, il est arrivé avec ça, sauf que Fancher, comme je disais, ne faisant pas les choses comme du monde, est arrivé à Ridley Scott avec un scénario de 110 pages qui était écrit sous la forme d'un mélange de nouvelles littéraires et de scénarios qui avait appelé « Acid Rain ». Et dans lequel, à la fin...
Bon titre, quand même.
Exactement.
Moi, j'aime bien.
Et à la fin, Deckard mourait.
Ah, bon.
Donc, après ça, bon, Ridley Scott est allé chercher un autre scénariste qui s'appelle Michael Green, qui est un gars très actuel qui a collaboré à certains films qu'on voit de nos jours. Plus, Ridley Scott aussi est arrivé avec beaucoup d'idéations, de concepts. Le concept de Joyce, c'est lui qui est arrivé avec.
Ah ouais.
Que Joyce soit capable de...
Mais oui, c'est un concept publicitaire, en fait, puis on sait que Ridley Scott, avant Alien, était un grand réalisateur de publicité.
Donc, voilà, c'est un petit peu ça, la genèse du scénario, l'arrière-scène, pourquoi Hampton Fancher, c'est quoi un petit peu sa contribution à ça. Par contre, je sais pas, un peu comme toi, qu'est-ce qui est resté de Fancher, qu'est-ce que Green a amené là-dedans pour faire cette espèce de melting pot qui nous donne bon, le scénario avec lequel Denis Villeneuve a travaillé.
Puis là, ben, c'est ça que je veux dire tantôt, tu parlais de Denis Villeneuve puis des scénaristes puis tout ça, mais en fait, on dirait que justement, des fois, les scénaristes sont là, le scénario est là, puis des fois, on dirait que c'est Villeneuve qui est là, avec les grands plans qui sont des superbes plans, puis comme je dis, c'est un des films visuels modernes, et si je me souviens bien, dans une interview de Villeneuve, il me semble qu'il avait dit qu'il avait essayé de faire le moins d'utilisation de CGI possible, et je crois qu'une des seules que je peux voir, et qui, tu vois, ça m'achalait un peu, mais quand même, on peut le voir, c'est quand il y a la fameuse scène où Wallace coupe le ventre de la réplicant, où ce qu'on voit qu'il y a comme des pods alentour de elle, un peu comme des caméras ou des
drones qui vont volants, comme visualiser l'endroit où ce qui se trouve pour lui retransmettre dans la tête pour qu'il y ait une idée de qu'est-ce qui se passe, à qui il parle, puis dans quel piécier, là.
Je peux chialer sur le CGI, et donc, justement, j'étais bien content de pas chialer sur le CGI, mais c'est le scénario qui a copié un petit peu.
Du CGI, il y en a beaucoup dans ce film-là. Je t'en vais via Facebook en font un petit vidéo qui montre vraiment la compagnie de production d'effets visuels derrière ce film-là, et ils montrent vraiment toutes les améliorations qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont placé la CGI, mais pour que t'aies pas été capable de l'avoir,
c'est ça qui est, c'est ça qui est important, bon, en fait. Ben oui, c'est ça qui est important.
Parce que souvent, ça a juste été des améliorations.
Tu veux pas que ça accroche l'œil.
Ça a juste été des améliorations à des décors qui existaient déjà pour les rendre plus gros, quelque chose du genre, ou plus vaste. Alors, en tout cas, je t'enverrai ça, tu vas voir, c'est un boulot absolument incroyable. Puis même moi, il y a des endroits où je pensais pas qu'il y avait du CGI et qu'il y en a beaucoup, honnêtement. Fait que ça a été très, très bien imbriqué dans le visuel de Villeneuve aussi. Ben, chapeau pour
Bravo,
ça, parce que...
On a hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec Dune, justement.
Ouais, on va y venir. Ben, en fait, c'est-tu quoi, regarde, on va y aller tout de suite. Je voulais qu'on parle de la réalisation aussi.
Oui.
Ben, Villeneuve, écoute, regarde, c'est-tu quoi, je vais juste faire un aparté parce que, genre, je veux me vider le cœur là-dessus. On parle de la prochaine réalisation américaine de Villeneuve, ça va être une autre adaptation de Dune, le roman de Frank Herbert. Et, c'est-tu quoi, je suis contre, parce que j'ai l'impression que ça va être un foutu projet casse-gueule pour Villeneuve, parce qu'à date, depuis qu'il est arrivé à Hollywood, c'est un sans-faute, selon moi, pour lui, avec Prisoner, avec Sicario, avec Arrival, avec
Arrival.
Blade Runner, je trouve que c'est un sans-faute absolument incroyable.
Tu as aimé Arrival?
Oui, j'ai bien aimé Arrival. Okay. Puis l'affaire, ce qui se passe, c'est que Villeneuve, ultimement, quand il a choisi Dune, il y avait deux projets sur la table. Dune et le prochain James Bond. Alors, le fan de James Bond en moi, t'es comme, merde, c'est fait pour Denis Villeneuve, parce que, as-tu vu Sicario?
C'est un choix crève-cœur, j'imagine, pour quand même
peut-être,
un réalisateur.
En fait.
Mais non, j'ai pas vu Sicario.
Parce que Sicario, c'est la carte de visite parfaite au producteur de Bond pour qu'il l'engage, parce que il y a des scènes de tension brillantes là-dedans, l'action est bien faite aussi.
Okay.
Ce serait parfait. Quand j'ai vu prendre Dune, je fais, Denis, je sais que t'aimes ça faire de la science-fiction, tu l'as prouvé que tu es capable parfaitement de le faire. C'est vraiment juste, je sais pas s'il va en sortir.
Ben, c'est l'interférence peut-être des scénaristes aussi. Tu sais, à un moment donné, à cette heure, avec les productions modernes, tout le monde a son mot à dire. J'imagine que dans le temps aussi, je suis pas dans le derrière la caméra. Mais j'ai comme l'impression qu'on lui a donné quand même visuellement carte blanche à Denis Villeneuve pour Blade Runner 2049, parce que le film aurait jamais pu sortir en salle à 2h45 si on n'avait pas fait confiance à sa vision.
Ça, je suis pas mal sûr que c'est à cause de Ridley Scott, ça, qui a fait comme, OK, tu vas laisser le film comme
genre
ça.
Il s'identifiait peut-être auprès de Denis Villeneuve, qui est un fan, parce que là, faut pas oublier que c'est ça aussi qui est quelque chose. À cette heure, la plupart des réalisateurs, évidemment, sont des fans de quelque chose. Donc, Denis Villeneuve a intégré un paquet de références fans dans Blade Runner. C'était peut-être son premier film. Je connais pas Villeneuve parce que, tu sais, comme j'écoute pas beaucoup de cinéma québécois, je suis pas à l'aise, je connais pas tant que ça ces références québécoises-là. Donc, je sais pas si c'était son premier film de science-fiction à Denis Villeneuve. J'ai comme l'impression que oui, et j'ai comme l'impression que c'était, Corrige-moi si ça l'aide pas, non?
Ben, il a fait Arrival.
Ah oui, oui, ah bon, oui. Mais on dirait qu'il était plus, on dirait qu'il avait peut-être moins carte blanche. J'ai plus suivi, je pense, le scénario, même si je l'ai pas aimé, le film Arrival. Je trouve que le scénario, l'histoire a l'air à mieux se tenir en termes, il est moins diffus, je trouve, que Blade Runner 2049. Et c'est ça, j'ai comme l'impression qu'on a donné carte blanche à Denis Villeneuve, bravo, puis tout ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il y avait un clash entre lui et ce que le film devait être. Puis je sais pas si c'est toi, c'est ça, c'est tes pères pour Dune.
Non, c'est juste parce que, encore une fois, c'est un projet monumental. Tout le monde s'est cassé la gueule solide là-dedans, puis c'est pas fait pour le médium cinéma, honnêtement. Ça,
ouais,
ça,
j'ai pas lu, moi.
Dune,
toi, je crois
ça
que
a
toi,
marché
lu,
très bien en série télé. Il y a eu deux versions de ça. Au début des années 2000, il y a eu Dune, qui était en 6 épisodes d'une heure et demie.
Okay.
Plus, après ça, ça a tellement marché qu'ils ont fait Children of Dune aussi, qui a bien fonctionné, mais de mettre ça en médium cinéma, même si Denis Villeneuve se fait encore donner le droit et la permission de faire un film de 2 heures et demie, je suis désolé, mais tout le monde va chialer encore, il va encore avoir peut-être des interférences de studio aussi, peut-être que, en tout cas, peu importe. Il y a plein de dangers au niveau du matériel de base et du système hollywoodien qui peuvent créer un projet casse-gueule ultimement.
D'ailleurs, revenons à Blade Runner, est-ce que tu sais que si Villeneuve a eu des interférences majeures auprès de producteurs?
J'ai eu beau lire beaucoup d'interviews avec lui, beaucoup de vidéos de making-of, des affaires de même, et je n'ai pas senti qu'on lui a mis des bâtons dans les roues à aucun moment. Du moins, il ne l'a jamais avoué si ça a été le cas. Puis même dans le résultat final, je ne sens pas, parce que comme tu l'as mentionné, un film de comme ça, un art house movie avec un budget d'au-dessus de 100 millions.
Ça
avec
pas fait
une
tant
durée...
d'argent que ça. C'est ça, ça avec je pense qu'on était déçus, là, les producteurs. Là. Je pense qu'ils ont fait 50 millions de profits.
Avec une durée de plus de 2 heures et demie, en effet. On voit pas ça nulle part. N'importe quel producteur aurait fait comme, OK, tu me coupes ça à deux heures. Non, 2 heures claque de même, puis ça aurait été extrêmement chiant. Tandis que là, il y a eu, comme je te dis, il y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir une liberté créative comme ça, d'avoir des longs plans, puis etc. comme ça.
Parce
honnêtement, il est fini des dieux.
Il a fait un très bon travail, le côté où on parlait de réalisation, en fait, là, c'est ça, il a fait un super bon travail. En fait, c'est ça, le acting, j'ai un petit peu de problème avec le jeu de certains personnages. En fait, c'est ça, l'aspect froid on parlait de Lieutenant Joshi, là, la boss de K.
Oui, qui est joué par Robert Wright, c'est ça?
Oui, Robert. Bob, on va l'appeler Bob. Puis K, le jeu de Ryan Gosling, honnêtement, il n'a pas grand-chose à dire, là, K. Là. Il se fâche, là, quelques places, on sent un peu d'humanité en lui quand il apprend que c'est pas lui, finalement, que son souvenir est un souvenir
implanté. Mais est-il programmé ainsi?
Oui, parce que là, on se dit, est-ce qu'il a été peut-être programmé pour tomber en amour? Non, excuse-moi.
Peut-être pour contenir les émotions, je ne sais trop, en tout cas.
En fait, je crois que j'ai des interférences avec ce que j'ai lu cet après-midi concernant Decker dans le premier, qu'on disait peut-être une des raisons pour laquelle peut-être qu'il serait un réplicant, c'est qu'il aurait été programmé pour tomber en amour aussi peut-être avec Rachel, et que ça serait un des buts de Tyrell de savoir si est-ce que ça va marcher, puisqu'elle, elle est capable d'enfanter, et c'est de l'intrigue dans le fond du deuxième, là. Harrison Ford, s'il pouvait être programmé à tomber en amour avec elle d'une manière qu'ils ne savent pas les deux qui sont en amour, bon, et de jouer le jeu.
C'est très intéressant, ça, c'est une belle piste, ça, Marc-André, c'est
exactement.
Cool. Hein. Selon toi, Blade Runner 2049, c'est-tu un film trop long?
Oui, il est trop long. Il manque un problème de structure,
de concision.
De concision, d'équilibre entre les beaux plans, l'aspect visuel, l'aspect photo du visuel, c'est ça, du film, et l'intrigue elle-même. Donc, des fois, on s'éloigne de l'intrigue. Des fois, le visuel, à cause du visuel, on se perd de manière poétique. C'est bien, mais
exactement. Donc, voilà. Mais moi, je suis de l'autre côté aussi. Où est-ce que ces longueurs-là, moi, j'ai appris à les aimer. Je les ai apprivoisées. Tu sais, moi, je pense à deux scènes précises où est-ce que lorsque K s'en va dans la fournaise pour trouver son espèce de petit cheval de bois, ça prend du temps avant qu'il ouvre le four. Tout le long, le monde se disait...
C'est vrai que ça aurait pu être coupé.
Le monde se disait tout le temps « Tabarnak, toi tu descends de l'escalier! »
Courage.
Fait que tu sais, cette longueur-là, j'ai appris à les aimer, à juste regarder le visuel. Ou ben quand l'autre scène où est-ce qu'il s'en va retrouver Decker, où est-ce qu'il rentre dans le casino, il passe étage par étage.
Ouais.
Celle-là aussi, je pense que c'est ma longueur préférée, honnêtement, parce que les choses qui sont dissimulées dans les arrières plan de ça, c'est du bonbon. C'est là ce qu'on peut souligner, la direction artistique qui est hallucinante dans ce film-là. Sinon, on parlait du visuel de Denis Villeneuve. En fait, il serait peut-être 50, 60, 70 fois moins bon si c'était pas de la fameuse direction photo légendaire, du plus légendaire encore, Roger Deakins, Directeur photo, très connu, qui œuvre dans le milieu hollywoodien depuis bien des années. D'ailleurs, vous voulez savoir où vous l'avez vu, Roger Deakins? Entre autres, il a fait tous les films des frères Coen. Les fans de James Bond, si vous avez vu Skyfall, c'est lui qui a fait la direction photo, qui est hallucinante là-dedans aussi. Alors, Denis Villeneuve a fait des pieds et des mains pour aller le chercher. Je pense qu'il l'a même sorti d'un contrat. Ils ont payé le studio pour qu'il libère de son entente contractuelle pour l'amener sur l'équipe de Blade Runner 2049. Villeneuve, il a dit carrément, dès le premier meeting, il a dit, regarde, t'as carte blanche. Tu t'amuses, ok? On collabore ensemble. Et il a fait un travail absolument incroyable et il a finalement eu l'Oscar, il n'y a pas très longtemps, de la meilleure direction photo. L'Oscar qu'il aurait dû avoir aussi pour la direction photo de Skyfall. Okay. Malheureusement qu'il n'a pas eu, je pense que c'est l'histoire de Pi qui a gagné, quelque chose de genre, importe. Là. Mais c'est ça. Au moins, ça a été, son travail absolument incroyable a été récompensé. Bravo. Et mon Dieu, quelle direction photo.
Oui, c'était une des forces du film, c'est bel et bien le visuel. Là. Je veux dire, on s'en
sort. On ne peut pas passer sous silence les fameuse scène qui se passe dans le bureau de Wallace où est-ce que tout est au motif aquatique.
Oui, et c'est un autre moment fan, là. Il reprend un peu ce qu'il a pu voir quand il était petit avec Blade Runner. Et là, il peut refaire les mêmes genres de visuels parce que c'est le même type de visuel que quand Deckard va rencontrer Rachel dans le Tyrell Corporation.
Oui, des tons orangés, jaunes.
Des reflets d'eau aussi qui se reflètent dans la lumière qui fait vibrer un peu les plans.
Quand on est à l'extérieur, tout est gris, tout est blanc, tout est morne. Ouais. Ça aussi, il faut le faire grâce à l'éclairage. Mm-hmm. Je pense encore à la première scène d'introduction où est-ce que Cass en va rendre visite à Sapper Morton quand on est dans la maison de Morton, les clairs obscurs qu'il y a là-dedans. Ouais. Venons juste la contradiction noir puis blanc là-dedans. C'est faut le faire, ça aussi.
C'est pas dans quel désert ils ont fait ça, mais je me souviens plus le désert où c'est que tout est craquelé là, à l'infini. Là, je crois que
À Las Vegas, tout le quand il s'en va.
Non, la version avec Morton, là, ils sont sur une place un peu comme aride, là, une place où il y a la sécheresse.
C'était un parking, ça. C'était un plateau de tournage qui ont comme genre bien éclairé.
T'es sérieux?
Mis du CGI pour créer du brouillard. Tout
le CGI, fameux.
Je te dis, si tu l'as pas remarqué, ça veut dire que ça a bien fait.
Ouais, mais tu vois, moi, je pensais qu'on était comme dans une contrée comme l'Australie.
Ils ont fait ça. Je pense qu'ils ont tourné ça. Je sais pas si c'était en République tchèque ou en. En gros, ils ont tourné ça en Europe de l'Est, ce film-là. Puis, okay. C'est ça qui est très bien. Les fonds, on s'en rend pas compte. Ah, ben, c'est ça, c'est très bien fait. Donc, bravo à Roger Deakins. Ce film-là, visuellement, c'est du bonbon à regarder. Et c'est grâce vraiment au visuel de Villeneuve et la contribution de Roger Deakins, plus toute l'équipe à la conception visuelle, à la conception des plateaux, des miniatures et tout ça. Ouais.
C'est là que le spectateur est récompensé enfin. Là, on a le temps, comme je te disais tantôt, de voir le film, de regarder, de visionner, puis d'apprécier les super plans que ce directeur photo dont j'ai oublié le nom a fait.
Roger Deakins,
voilà, tu vois, je ne le connais pas.
Mais maintenant, on a parlé beaucoup du bonbon visuel que nous donne Blade Runner 2049. Eh bien, 2049 aussi nous offre un bonbon auditif. C'est-à-dire la musique de ce film-là. Oui. Beaucoup diront que la marche était quand même assez haute pour quiconque serait embauché pour arriver et rivaliser avec la musique de Vangelis.
Wow.
Du premier film qui est hallucinante.
Trame sonore qui est tellement incroyable.
C'est juste dommage que les meilleurs morceaux soient pas dans le film.
Ouais, c'est vrai que quand quelqu'un qui regarde le film et qui écoute la trame sonore, il y a un paquet de bouts qui sont pas, comme peut-être sûrement aussi un paquet de trame sonore qu'on a juste seulement qu'une portion de la chanson qui a été faite. Puis qui des fois en background un petit peu difficile d'être entendu le soundtrack la trame sonore qui est maintenant en trois disques je crois de Vangelis en plus.
Oui, le Esper Edition quelque chose du genre c'est quelque chose.
Oui, mais le disque 1 reflète la trame sonore originale qui est incroyable.
Formidable. Alors 2049, moi je dois t'avouer Marc-André que depuis un an, depuis que Blade Runner 2049 est sorti au cinéma, c'est une de mes bandes sonores par défaut que j'écoute en travaillant. Enfin, je l'écoute en boucle depuis un an, je la trouve absolument hypnotisante. Au début de sa conception, elle a eu plusieurs épreuves pour exister, cette bande sonore-là. Au départ, c'est Johan Johansson qui avait été engagé par Denis Villeneuve, parce qu'ils ont beaucoup collaboré ensemble dans les dernières années sur tous les films de Villeneuve aux États-Unis, qui devait faire cette bande sonore-là. Malheureusement, Johansson s'est retiré du projet. À l'époque, on se demandait pourquoi. On a découvert à la longue que c'était pour des raisons de santé, parce que Johansson est décédé quelques mois plus tard.
Oh.
Et sont allés chercher un remplaçant. Puis je pense qu'ils ont eu un remplaçant quand même de très bonne qualité. Ils sont allés chercher Hans Zimmer, Monsieur la Chambre.
Oui, que tu aimes bien, je crois. Monsieur la Chambre.
Oui, c'est ça, parce que Zimmer en allemand, c'est chambre.
Ah bon, toi, j'avais
pas. Parce que ça a vraiment été une commande extrêmement rapide, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps entre la sortie du film et bon le moment où est-ce qu'il a été engagé pour produire vraiment la bande-son complète. Fait qu'il a amené avec lui Benjamin Wallfisch, qui est un de ses dauphins, si on veut. C'est un de ses élèves, si on veut, à l'école Hans Zimmer, si on veut. C'est un de ses protégés. Alors, les deux ont fait, selon moi, une bande sonore qui est en parfaite continuité avec l'univers sonore que Blade Runner, l'original, nous a donné. On a bien sûr du synthétiseur, on a absolument tout. C'est vraiment une belle continuité sonore de l'univers sonore de ce monde de Blade Runner, si on veut. Puis ce qui est amusant aussi, c'est qu'ils sont allés chercher, Wallfisch et Zimmer sont allés chercher pour les parties de synthétiseur, sont allés chercher vraiment un vieux modèle que Vangelis utilisait lui-même en 1980 pour ça. Puis cette affaire-là, c'est débile. Il a l'air d'avoir du ciment là-dedans. Il y a 30 000 boutons sur ce synthétiseur-là. Alors, pour donner vraiment un aspect authentique, ils ont travaillé avec ce type de synthétiseur-là aussi.
Ah ben, je sais que Vangelis, quand on voit des fois des trucs de lui, parce que je l'ai googlé, j'ai écouté un paquet de trames sonores et un paquet de ses albums originaux de Vangelis, ou Vangelis, je sais jamais comment
bien dire. Écoute, je sais pas trop.
Je pense que j'avais lu un moment donné, c'était Vangelis. Et là, depuis avant, je disais Vangelis.
C'est ça qui est con. Je pense que c'est Vangelis, mais en nord-américain qu'on est.
Ouais, je pense que la prononciation grecque, c'est Vangelis. Anyway, ouais. C'est le bon. Tout le monde le connaît peut-être.
Le gars avec la moustache.
Oui, la bonne barbe. Mais tout ça pour dire qu'on voit de ses photos de lui en studio, il est entouré d'un paquet de Korg, ou je pense plus c'est quoi la marque de synthétiseur, mais il y a un paquet de synthétiseurs différents avec lesquels il fait ses ambiances qui sont incroyables. Vangelis, c'est cette musique envoûtante qui est pratiquement un personnage dans le film, en tout cas dans le premier, ça c'est
tout
certain.
Puis honnêtement, moi je la trouve mémorable, celle de 2049. Moi, il y a deux extraits que j'aimerais te faire entendre honnêtement. Selon moi, des pièces qui accrochent le plus mon oreille, puis qui marchent tellement bien en symbiose avec ce qu'on voit à l'écran que... Écoute, on peut pas avoir mieux que ça comme moment image son. Donc moi, le premier, c'est une pièce qui s'appelle Flight to LAPD. C'est au moment où est-ce que, au début du film, quand Morton a été éliminé par K, K est dans son espèce de petit vaisseau spatial. Alors là, il s'en va directement. Il retourne dans la ville de Los Angeles. Il s'en va au LAPD.
Il retourne au bercail.
Ouais, exactement, en plein milieu d'un orage et tout. Puis c'est la première fois où est-ce qu'on voit la bête, c'est-à-dire Los Angeles. T'es vraiment, tout est gris, tout est sale, tout est plein de néons, de projections, etc. Exactement, parce qu'on voit encore d'autres vaisseaux voler autour. Puis là, on entend vraiment la musique de Zimmer puis de Wallfisch. Puis on dirait que c'est une sorte de confrontation. On entend des boum, paf, boum, boum. On dirait vraiment c'est K qui s'en va à la rencontre de cette bête-là, de cette entité-là dont il fait partie. Alors, je proposerais qu'on écoute ça ensemble quelques instants pour donner vraiment un petit aperçu de ça à nos auditeurs. Deuxième pièce qui, moi, a marqué mes oreilles et mon imagination, ben c'est vers la fin du film. C'est une pièce qui s'appelle Seawall. Écoute, c'est cette fameuse scène de confrontation entre Love et K qui sont dans l'eau alors que Decker est enchaîné dans son vaisseau qui est en train, genre, de plonger puis de s'embourber, genre, dans... Je sais pas c'est quoi, c'est l'océan ou la mer ou je sais pas trop quoi. Alors, c'est assez incroyable et immersif comme bande sonore pendant qu'on voit les deux robots se battre puis Decker tenter d'essayer de survivre. On écoute un petit extrait aussi. Là, Marc-André, moi, je viens de parler de mes moments musicaux préférés. Toi, y en as-tu qui t'ont sauté aux oreilles?
Les thèmes répétés de ce que Vangelis avait créé, en fait, qui me confortait, qui me réconfortait, en fait, dans les grands plans silencieux et poétiques que Villeneuve, comme je te dis, les libertés que Villeneuve a pris, qui cimentaient, en fait, le film comme un successeur digne de ce nom du premier.
Effectivement, c'est exactement ce que fait la réutilisation de la fameuse pièce Tears in the Rain.
Oui.
À la toute fin du film, quand, bon, la mission est accomplie du côté de K, il envoie Decker voir sa fille et K, paisiblement, peut se laisser aller, non pas sous la pluie, mais sous la neige.
Qui est quasiment un happy ending, finalement.
Tout le monde a ce qu'il veut, la mission est réussie, est accomplie, le bien a gagné, papa et fille sont réunis,
ouais,
voilà.
C'est ça, qui déroge un peu de ce qu'on avait vu dans le premier, où c'est qu'il y avait une ambiguïté incroyable, puis qu'il y avait encore la question de l'identité qui était encore non résolue.
Ça nous fait réaliser que Blade Runner, c'est un beau film sur la paternité, finalement.
Ah, wow, oui, ben oui, on peut dire ça, en fait. Puis c'est une manière aussi d'amener, parce que bon, il y a une nouvelle auditoire pour Blade Runner 2049, qui j'imagine, c'est super encourageant de revenir à la base et d'après ça, d'encourager ces spectateurs-là d'aller voir le Blade Runner original. Et c'est aussi une manière de satisfaire le spectateur, le plus vieux spectateur, le fan du Blade Runner 1.
Du fanservice, littéralement.
Oui, exactement, parce que t'as pas le choix de faire un équilibre entre les deux. Puis, c'est ce que des fois les bons films de super-héros peuvent faire, là, si je peux faire l'analogie, et c'est ce que les mauvais films des fois de super-héros ils peuvent faire. En fait, donc c'est ça, oui, donc Blade Runner est
on regarde ça
réussite.
Pour notre podcast sur Avengers Infinity War. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah oui, CGI.
Ça risque pas d'arriver de mon vivant.
Non, on va peut-être parler de d'autres choses.
Hey Marc, recommanderais-tu Blade Runner 2049?
Tout à fait. Écoute, malgré que j'ai beaucoup de choses, pas négatives, mais des petites choses, des trucs qui m'accrochent l'œil ou l'oreille, le critique en moi, en fait. Sinon, c'est un film qui réussit, là. Faut pas se le cacher. C'est quand même un film réussi côté visuel. C'est un film quand même réussi aussi à faire découvrir le premier aussi, à faire découvrir ce type de cinéma-là. Tu sais, dans le fond, ça donne un peu un espoir, au fait, parce que on est tellement entouré de blockbusters, selon le flèche à Hollywood un peu, mais quand même que Hollywood soit capable de donner la chance à ce type de film-là d'être fait ou refait, si on peut dire, à la sauce, pas une sauce moderne, mais un film artistique, comme tu disais, c'est un film art, je sais pas comment le dire, là, un art quelque chose, un art movie, peut-être. Ah bon, voilà. C'est ça, c'est un type de film qui, malheureusement, qui, habituellement, soit était un film indépendant, c'est rare qu'on va le voir dans le mainstream. Puis là, je suis content de voir qu'on a donné la chance à ce type de film-là de vivre puis d'être porté à l'écran. Donc oui, je le recommande chaudement.
Moi, je fais aussi la même chose à nos auditeurs qui l'ont pas encore vu. Oui, je recommande chaudement aussi Blade Runner 2049. Bon, pour un tas de raisons. Premièrement, ça encourage un de nos bons réalisateurs ici. C'est le fun de se retrouver.
Ben oui, c'est vrai.
De voir un des nôtres, un Québécois derrière une grosse franchise comme ça, c'est le fun. Puis ça prouve que ben quand on veut, on peut. Puis j'espère voir beaucoup d'autres Québécois derrière des caméras hollywoodiennes un jour. Ce serait formidable.
Bien
aussi.
Dit.
Puis aussi, ben rien n'empêche ces Québécois-là de revenir aussi tourner au Québec de temps en temps. Je vais être le gars le plus heureux au monde si ça se produit. Aussi, bon, je le recommande parce que... Mais faut le regarder dans un certain prisme, ce film-là, dans un certain contexte. Parce que c'est pas le genre de film qu'il faut que tu regardes, genre, quand t'as une heure et demie seulement à dépenser de ton temps, puis tu veux tuer le temps en regardant un film. Non, c'est un film qui mérite qu'on prenne son temps pour le regarder, oui. Qui mérite qu'on fasse des arrêts sur image, des fois, pour voir, encore une fois, la composition d'image, les plans, les couleurs, la direction artistique, composition des décors, des costumes et tout ça. Et c'est une... Selon moi, écoute, je vais peut-être être controversé, mais je trouve que c'est une des meilleures suites jamais faites pour un film. Je le trouve
voilà,
en parfaite continuité. Parce que je trouve qu'il y a une belle symbiose entre le produit original et cette nouvelle aventure-là qu'on nous propose dans l'univers des Blade Runner. Tout y est naturellement progressé. Tu sais, on retrouve beaucoup d'imagerie qu'on voyait dans l'original, mais il y a eu une évolution parce que ça se passe encore une fois 30 ans plus tard.
Ouais,
mais on voit
c'est
que
une suite qui n'est pas forcée.
Exactement.
En fait, c'est une suite qui est voulue, contrairement à des suites qui sont forcées par les aspects commerciaux de la chose, d'une trilogie ou quoi que ce soit. Là, présentement, c'est un film, on revient à un film qui a été prisé par les critiques et qui a été même, qui a été redécouvert par plusieurs après le Director Scott en 92, qui a été redécouvert par plusieurs personnes qui avaient peut-être négligé de le voir en 82. Donc,
c'est ça.
Ça, c'est un autre aspect
je
positif.
Je trouve qu'il y a une belle connectivité entre les deux films. Si on sort de l'univers du film, qu'on le ramène à la réalité, parce qu'il est arrivé à Blade Runner 2049 exactement ce qui est arrivé à l'original, c'est-à-dire
C'était un flop.
Ça a été un flop du box-office, mais ça a été un succès critique. C'est devenu un film culte et Watch Out, dans quelques années, je suis pas mal sûr que 2049 aussi va devenir un film culte pour un paquet de raisons évidentes, peut-être pour d'autres raisons qu'on va découvrir plus tard quand le film va maturer dans l'histoire du cinéma et dans l'esprit des spectateurs aussi. Mm-hmm. Alors, on n'a pas terminé de voir les magnifiques qualités de ce film-là dans l'histoire cinématographique et dans les années suivantes qui s'en viennent. Alors Marc-André, on a presque déjà fini, c'est presque déjà la fin, mais je peux pas te laisser partir sans y aller avec la petite section que j'ai baptisée « Savais-tu Marc-André? » Pour ceux qui se joignent à nous, bon, c'est une tradition à 100 commentaires ou presque, je vais aller chercher des petites anecdotes derrière coulisses et dernières scènes par rapport au film, son développement et des choses qu'on connaît pas vraiment dessus. Alors ben, je vais vous les révéler pour vous et pour Marc-André ici qui est avec moi. Es-tu prêt?
Yes, sir!
Savais-tu Marc-André que l'immeuble dans lequel K habite s'appelle le Mobius 21, en référence au célèbre dessinateur Jean Mobius Giraud, qui a produit des dessins conceptuels pendant la conception de Blade Runner en 1982.
Je ne le savais pas.
Savais-tu, Marc-André, que le numéro de série de K est le KD6-3.7? C'est un hommage dissimulé, selon moi, à l'auteur de science-fiction Philip K. Dick, dont la nouvelle littéraire « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques » est devenue Blade Runner au cinéma.
Je ne savais pas, mais tu peux me répéter le chiffre?
Oui. KD6-3.7.
OK, oui. 6-3-7, alors là, le 6-3-7, il va falloir
analyser ça. Si t'additionnes 6 plus 7, ça nous donne 13 plus 3, 16, y a-tu un chiffre 16?
Le 6...
7 plus 6 plus 3, ou 6 moins 3 divisé par 7.
16, il va falloir aller voir ça. Il y a des dates spécifiques, j'imagine, pour Philippe Kédic, mais en ce moment, ça me dit rien. Mais non, je savais pas.
Bon, ben, je te fais confiance là-dessus. Savais-tu, Marc-André, que, ne sachant pas vers quel acteur se tourner pour interpréter Neander Wallace, Denis Villeneuve a demandé conseil à son ami, le réalisateur Jean-Marc Vallée. Après que Villeneuve lui ait décrit le personnage, Vallée lui a immédiatement suggéré Jared Leto, avec qui il a tourné dans Dallas Buyers Club.
Je ne le savais pas du tout.
Pour rebondir aussi sur le sujet de Neander Wallace, savais-tu, Marc-André, que Gary Oldman et Ed Harris ont été aussi considérés pour le rôle de Wallace?
Je ne le savais pas non plus.
Savais-tu, Marc-André, que Ridley Scott a révélé que la scène d'ouverture dans laquelle K et Sapper Morton se confrontent était destinée à l'origine à servir d'introduction au personnage de Rick Deckard dans l'une des premières versions du scénario de Blade Runner au début des années 80?
Non plus, je ne savais pas. J'ai pas lu la première version de notre ami Fincher, donc je ne savais pas, non.
Savais-tu, Marc-André, que Denis Villeneuve a brièvement considéré la possibilité de couper ce film en deux parties et de les sortir séparément en salle au cours de l'année? Villeneuve a finalement tranché en faveur d'en rester à un seul film. Savais-tu, Marc-André, que pendant le tournage de leur scène de combat, Harrison Ford a accidentellement donné un vrai coup de poing au visage de Ryan Gosling? Pour se faire pardonner, Ford a invité Gosling à venir partager avec lui une bouteille de scotch dans sa loge.
Oh non, je savais pas.
Non, parce qu'apparemment, quand tu prends une brosse avec Harrison Ford, tu t'en souviens pendant 3 semaines après.
Oui, bon.
Oui, exactement. On l'a baptisé Hans Yolo dans la vie aussi. Ça pourrait expliquer pourquoi il se crash tellement souvent.
Oui, il y a eu quelques accidents dernièrement, dans les dernières années, en tout cas.
Et pour finir, savais-tu, Marc-André, que, ayant dépassé l'âge de reprendre le rôle de Rachel selon les spécifications du scénario, l'actrice Sean Young a été contactée pour entraîner l'actrice en charge de la capture de mouvement de la reproduction de Rachel animée par ordinateur pour reproduire fidèlement le maniérisme qu'avait ce personnage pendant le premier film de la série. Afin de garder secrète la présence de Rachel dans Blade Runner 2049, le tout a été fait dans le plus grand des secrets. Même Sean Young disait dans diverses entrevues qu'elle n'avait pas été impliquée dans la production du film. Ça, je pense que tu le savais effectivement. André, quel plaisir ça a été de passer cet après-midi-là avec toi.
Merci beaucoup, Sébastien.
Ça a été super le fun, puis t'étais vraiment la meilleure personne que je pouvais amener pour parler de l'univers de Blade Runner, encore une fois.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Excellent. Alors, chers auditeurs, c'est tout en ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, je vous remercie énormément de nous avoir écoutés cette fois-ci. Alors, en mon nom personnel et celui de Marc-André Roy, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Sans commentaires, ou presque.